Bon, bonsoir à tous. Alors, je rappelle le point où on en est, peut-être qu'on pourra prendre aussi quelques questions. Donc on a eu deux grands chapitres sur Paul, l'homme et sa culture, ses origines, sa formation, son changement de nom, son rapport compliqué, enfin la question de son apostolat. Bon, lui se définit clairement comme apôtre, il y a beaucoup d'apôtres à l'époque, le rapport aux 12. Acte 14, 4, 14, bon, Luc ne l'appelle pas apôtre sauf deux fois, bon. Le fait ensuite, troisième chapitre, que Paul a été d'abord un pasteur qui a créé un réseau qui était appuyé sur un grand nombre de collaborateurs avec un lien affectif extrêmement puissant entre les communautés et Paul, entre les collaborateurs et Paul, que c'est sans doute ce lien qui explique la transmission des lettres. Le recueil de ces lettres, un peu à la façon dont les amis de Cicéron ont recueilli les lettres de Cicéron après la mort de Cicéron. Donc une étude absolument passionnante qui a été faite il y a quelques années sur comment ont été mises en petit livre les lettres de Cicéron, puisque après tout, il y a eu une collection des lettres pauliniennes. Donc, comment on faisait des collections de lettres à l'époque? J'avoue que jusqu'à 10 ans, je ne m'étais pas posé la question, moi je ne savais pas s'il y avait des points de contact. Alors on a un point de contact du 1er siècle qui sont les lettres de Cicéron, où l'on voit que les hypothèses des ciseaux de haute qualité par lesquels vous allez découper des versets et puis enlever et recomposer, ça ne marche pas bien. Ce qui est plutôt la technique de l'époque, c'est que vous avez deux endroits où vous pouvez couper, hein, après l'introduction littéraire et avant la fin. Et en règle générale, le principe des éditeurs, c'est effectivement sur des thèmes communs, des lettres à thèmes communs, mettons l'amitié, donc on va prendre le début d'une des lettres, une lettre, couper le début et la fin d'une autre, mettre la deuxième, etc. Mais on ne découpe pas au verset. On n'est pas là avec, comme les enfants, avec tous les, hein, si vous voulez, les ciseaux, le scotch, la colle, les papiers sur la table. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est très intéressant cette thèse, parce que ça montre un peu comment on peut visualiser le processus qui a conduit à la fabrication des collections de lettres de Paul. Et c'est intéressant pour 1 et 2 Corinthiens notamment, et tout le débat sur la correspondance corinthienne. Voilà, les trois premiers chapitres. Alors le quatrième chapitre, le projet d'égalité dans les communautés pauliniennes, avec voilà, ce souci fondamental qu'avait Paul d'un respect mutuel, d'une reconnaissance mutuelle dans ces communautés de gens d'origine différente. D'origines différentes au plan social, au plan ethnique, au plan religieux et au plan gender, bon, homme, femme, etc. Et donc on avait pris l'exemple, peut-être un peu longuement, mais bon, c'est intéressant de se plonger parfois dans les soutes de l'exégèse, de descendre dans la salle des machines et de voir comment Galates 3.28 avait donné lieu à un intense travail d'exégèse pour comprendre ce que voulait dire cette fameuse formule. Voilà, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus le mâle et la femelle. Bon. Alors, la dernière fois, j'avais commencé à aborder la question du rapport à Israël. L'idée étant de faire un parcours qui va de, donc, 1 Thessaloniciens 2, 14, 16, donc cette exclamation de colère de Paul dans une lettre par ailleurs irénique, plutôt, positive, de ton. Et j'avais essayé de défendre l'idée selon laquelle Paul reprenait, voilà, un lieu commun classique, un théologouménon, un lieu théologique de la Bible. C'est un thème trop prophétique qui est le peuple persécute les envoyés de Dieu. Voilà. Et donc que Paul ne reprenait pas un topos païen ou anti-juif, mais plutôt s'inscrivait lui-même dans la ligne des prophètes parlant au peuple. Alors, si vous vous souvenez, c'est assez cohérent avec le fait que j'avais insisté que quand Paul parle de lui-même, il le fait sous le mode des prophètes. Quand il parle de sa vocation, il ne dit pas « le Seigneur Jésus m'a dit « viens et suis-moi ». Il m'a dit « quand Dieu a daigné m'appeler dès avant le sein de ma mère, etc., dès avant ma naissance », bon, à la manière de Jérémie, d'Isaïe ou des autres prophètes. Qu'il se compare par ailleurs, en 2 Corinthiens 3, à Moïse, etc. Donc, Paul a plutôt un modèle prophétique. Donc finalement, ce n'est pas étonnant qu'il utilise un topos, un lieu commun prophétique. D'accord ? et que cette exclamation de colère correspondait à ces longues années où Paul a eu à affronter finalement d'autres apôtres, sans doute en partie, même si lui ne dit jamais. Bon, parfois méchamment, il dit des super apôtres, enfin c'est ironique. En tout cas, des prédicateurs, si ce n'est judéo-chrétiens, du moins à théologie judéo-chrétienne, ils pouvaient être d'origine païenne, tout comme Paul est d'origine juive dans l'autre camp. Hein, j'ai beaucoup insisté sur cet élément que la théologie ne recoupe pas les origines ethniques des gens. Hein, bon. Donc, pendant 20 ans, hein, entre 35 et 55, en gros, Paul a eu à toujours défendre ses communautés, défendre la légitimité de sa théologie, la légitimité de son statut d'apôtre, la légitimité de ce qu'il appelle mon évangile, son évangile, qui consiste à ne pas imposer aux païens convertis les règles cultuelles du judaïsme. Et la lettre aux Galates, on est au cœur de ce conflit, voilà, vous observez les jours, les années, les mois, les saisons, les nouvelles lunes et tout, c'est pas le problème, la question des repas au début, la circoncision à la fin, bref, toutes ces lois-là. Donc, ça a été toujours un peu le front contre lequel Paul a eu à combattre. Pas de manière, d'ailleurs, pas à combattre de manière purement théorique ou par des lettres, mais très concrètement, il est persécuté par, souvent par les synagogues. Donc il reçoit 5 fois les 39 coups de fouet, il est lapidé une fois, laissé pour mort une autre, etc. Et puis là, on a l'impression dans Thessalonique, il se fait expulser de la ville, puisqu'il y a le schéma que raconte très bien Luc dans les Actes, c'est que les notables juifs bien introduits dans le système civique, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à la journée Saint-Paul samedi. Ah oui, il y a du monde. Donc vous avez entendu Marie-Françoise Basselès réexpliquer un petit peu l'importance du système civique, de la cohésion civique dans l'Antiquité, et on voit bien que, imaginez qu'à Sardes, bon on le sait pour Sardes, mais on connaît un peu mieux la communauté juive à Sardes, mais que dans une ville voilà, où les juifs font 5 à 8% de la population, sont un groupe bien repéré, bien connu, avec un certain nombre de membres au conseil municipal, que si un certain nombre de ces notables vont trouver les chefs de la ville ou le conseil de la ville en disant « Attendez, il y a un groupe de gens extrêmement dangereux, de prédicateurs extrêmement dangereux qu'il faut absolument chasser de la ville et le leader s'appelle Paul, vous l'arrêterez facilement parce qu'on le trouve à tel endroit. Bon, » et que Paul se fait comme ça régulièrement expulser, arrêter puis expulser. Enfin, ça lui plaît pas beaucoup, on le comprend. Voilà, c'est normal. Évidemment, il va dire, bon, les chrétiens sont persécutés, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais enfin, ça l'agace quand même un petit peu. Bon. Donc, il subit la persécution. Pour lui, ça prouve son statut d'apôtre, quelque part. Hein, on avait vu ça. Ses souffrances apostoliques montrent que, quelque part, il n'annonce pas un évangile au rabais, puisqu'il subit des persécutions. Bon. Donc, voilà la situation. C'est ça que j'avais essayé. On avait fini avec ça. Paul s'est affronté pendant 20 ans, de manière permanente, à ce type d'opposition extérieure à la communauté pour ce qui est des juifs non chrétiens, danger de mes compatriotes, comme il dit à Corinthiens, danger des faux frères, c'est-à-dire des gens qui sont chrétiens, d'origine juive ou pas, mais qui n'approuvent pas sa théologie et qui donc cherchent à le marginaliser. Bon. Donc ça, c'est toute la vie apostolique de Paul, de 32-35 à 57-58. Bon. Et puis, voilà, il y a la lettre aux Romains. Romains 9 à 11, où on va entendre un peu un son de cloche différent, parce que pour la première fois, le problème va être différent. Voilà pour avoir résumé le parcours finora, jusqu'à maintenant. Il y avait des questions, je suis prêt à prendre, on m'a suggéré de prendre un temps de questions, je m'y prête volontiers. Ah. D'accord, c'est très légitime votre question. Alors... Effectivement, 14 écrits se revendiquant aujourd'hui de Paul. On met 13 plus 1 parce que la lettre aux Hébreux, même dans l'Antiquité, même dès le 2e, 3e siècle, aucun père d'Église ne dit qu'elle est de Paul. Hein, c'était trop clair pour l'époque, ça n'avait pas grand-chose à voir. Même s'il y a le petit billet à la fin, qu'il inclut dans les collections pauliniennes. Hein. Je crois que j'avais commenté ce petit billet assez astucieux, qui dit d'ailleurs pas que Paul l'a écrit. Il dit « Je vous envoie ce texte qui est quand même pas mal. Hein. Donc lisez-le, et puis machin et machin vous salue, etc. Ceux d'Italie vous saluent. » Bon. On met hébreu, reste 13. Sur ces 13, il y a 7 plus 6. Jusque-là, c'est des mathématiques qu'on maîtrise. Hein. Donc 7. Dans les 6, en fait, 7 plus 3 plus 3. Alors, on appelle deutéro-pauliniennes Colossiens, Éphésiens, qui vont étroitement ensemble, puisque aux trois quarts, c'est un matériel commun. Et puis, deux Thessaloniciens. Donc, en gros, à 90%, les exégètes, protestants, orthodoxes, catholiques ou athées, disent sept lettres. Hein, commencez le truc rococo, galéfi, machin, hein, romain, corinthien, corinthien, Galates, Philippiens, Philémon, sont de la main de Paul. Il y a des dissidents toujours, mais en gros, voilà. Sur Colossiens, Éphésiens, 2 Thessaloniciens, c'est plus partagé. Vous trouvez des exégètes qui soit disent pourquoi pas, soit qui disent c'est sans doute de Paul, soit qui disent c'est tellement proche de Paul que ça pourrait être de lui, etc. Dans son dernier commentaire, donc dans le dernier commentaire en français sur Éphésiens de ma collègue Chantal Régnier, qui enseigne ici, qui a une grande œuvre exégétique derrière elle déjà, bon, qui est spécialiste de Paul, qui a fait sa thèse sur Éphésiens, avec le même directeur de thèse que moi. Donc dans son commentaire, les livres bleus, il y en a 4 ou 5 qui sont parus, un commentaire du Nouveau Testament en bleu là. Donc il y a Galates qui est sorti, Éphésiens, première lettre de Jean par Michel Morgan, etc. Bon, elle refuse un peu de trancher. Elle dit, moi ce qui m'agace, dit-elle, c'est que on dit, bon, c'est pas de Paul, donc c'est moins important, donc on prend pas vraiment au sérieux la lettre. Or, s'il y a eu une lettre qui a eu de l'importance dans la théologie chrétienne, plus que toutes les autres, c'est Éphésiens. Plus encore que Romain. Romain arrive dans le paysage à cause d'un gars qui s'appelait Martin Luther et qui avait ses problèmes. Bon. Mais, avant Martin Luther, la lettre la plus citée par les pères de l'Église et les théologiens du Moyen-Âge, d'accord, c'est Éphésiens, parce que quelque part, c'est la lettre ecclésiale par excellence. Où on parle de l'Église avec un grand E. Bon. Or, comme cette lettre a été tenue à peu près jusqu'au XVIe siècle, ces lettres, Éphésiens et Colossiens, comme de Paul, modulo quelques hésitations, mais enfin, grosso modo, ça n'a pas eu d'impact, quoi, voilà. Alors après, Timothée 1, Timothée 2 et Tite, donc on appelle souvent les pastorales, ou les trito-pauliniennes. Là, quand même, là, on est sur du 90-10, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 90% des exégètes disent c'est sans doute, c'est pas de Paul, voilà. Et pas d'abord pour des raisons de vocabulaire ou de même tellement de style, parce qu'une fois de plus, comme dit l'autre, Romain Gary, enfin, je sais pas, on peut avoir deux fois le prix Goncourt en changeant de style, ou enfin, un écrivain a le droit de changer de style et de changer de vocabulaire, après tout. C'est plutôt que manifestement, de la vie de 90% des gens, les problèmes de l'Église sont plus les mêmes. La théologie a progressé. On suppose, on parle de Paul, mais c'est au passé. C'est-à-dire qu'on n'est plus, dans le même contexte. Alors évidemment, vous dites, oui, mais c'est Paul en 63, il était président. Ça ne suffit pas pour justifier un tel écart théologique, des problèmes. Alors vous rajoutez différence de vocabulaire, différence de style, différence de théologie, différence de contexte ecclésial, et vous avez plutôt tendance à conclure différence d'auteur. Même si on est dans le cadre des églises pauliniennes, ça tout le monde est d'accord. Donc on va parler en termes de trajectoire paulinienne. Hein. Donc pour ceux qui étaient là samedi, Odile Flichy a bien dit qu'aujourd'hui on parle des différents héritages de Paul. Un héritage des lettres, hein, un peu orthodoxe, la théologie, un héritage biographique avec les actes et d'autres choses, et puis un autre héritage alors des lettres apocryphes, on va dire. Et puis même après les actes, il y a d'autres écrits, les actes de Paul et de Thécla, etc. Bon. Donc il y a différentes trajectoires qui partent de Paul. Donc c'est pour ça qu'on distingue un peu ces trois niveaux dans les lettres de Paul. Ça va ? Ça éclaire bien les choses ? Alors, une fois de plus, il faut dire, c'est comme pour le Jésus historique, je ne cesse de le redire, je l'ai dit samedi à la question de la jeune fille qui est étudiante en premier cycle d'ailleurs. Une fois, le fait que nous ne qu'au nom de notre intelligence, nous cherchons à savoir, à reconstituer historiquement ce qu'a fait et dit le Jésus historique, et à avoir un jugement qui va parler en termes de probabilité sur telle ou telle parole et tel ou tel geste. Donc le travail que fait ce prêtre, John P. Meyer, depuis 20 ans aux États-Unis, et puis plein d'autres avant. La quête du Jésus historique. C'est légitime. Une fois de plus, mais comme en théologie comme partout, être croyant, c'est pas mettre sa raison en bandoulière. C'est lui donner sa place, pas plus. Nous sommes des êtres, pas uniquement rationnels, mais aussi rationnels. Bon. Donc ce travail est légitime, et Joseph Ratzinger, grâce à ses deux volumes sur Jésus, leur a donné quand même lettre de crédit de quelqu'un qui était quand même accessoirement à ses heures perdues pape à l'époque, donc pas n'importe qui, pour dire c'est légitime. Alors bon, la chronologie de la passion, qui est-ce qui a raison, Jean les synoptiques, c'est pas la même chose, etc. Bon, travail de l'intelligence. Après, au plan de la foi et au plan de la théologie ecclésiale, et de l'affirmation que nous faisons que c'est l'Esprit-Saint qui a inspiré les écrits canoniques, à la fois dans leur inspiration d'écriture et dans la réception, ce sur quoi insiste beaucoup Christophe Théobald dans cette question, la réception du Concile, la réception de l'écriture, les choses valent quand elles sont reçues, c'est-à-dire que l'Esprit qui donne et l'Esprit-Saint présent chez les fidèles reconnaît que ça parle. Bon. Donc, l'Esprit-Saint nous fait dire que l'ensemble du Nouveau Testament, du premier verset jusqu'au dernier verset, est pour notre salut. Toutes les paraboles, toutes les paroles qui sont mises dans la bouche de Jésus viennent de Jésus ressuscité de toute façon. D'accord ? Donc même si Jésus n'a pas raconté la parabole du fils prodigue sous la forme de Luc, même si, comme je le défends avec d'autres, c'était sous une forme proche de Matthieu 22, donc une parabole beaucoup plus courte, un homme avait deux fils, il dit au premier, etc. Même l'histoire des cochons et de dépenser l'argent avec les prostituées, parce que Luc a jugé bon que le récit devait être vraiment frappant, ça devient de Jésus, c'est plus le problème, c'est validé. Bon. Donc pour Paul, pareil. Donc d'un côté, nous faisons un travail pour dire qu'est-ce qui remonte ou pas à Paul, de l'autre, on dit tout est de Paul. Bon. Troisième temps, on peut dire discernement, parce que tout dans l'écriture n'a pas la même valeur, de même que tout dans la foi n'a pas la même valeur. Bon, le Concile, après, et puis les théologiens parlent de hiérarchie des vérités. Bon, donc, tout n'a pas la même valence. Bon, il y a des paroles de Jésus, une fois de plus importantes que d'autres. Alors, comme catholiques et orthodoxes, nous refusons par principe à le déterminer formellement, à dire, comme disait Luther, la lettre de Jacques, ça n'a aucune importance, il ne faudrait pas que ce soit dans le canon, et la lettre aux Romains, tout doit être jugé à l'aune de la lettre aux Romains. Non. Maintenant, quand dans le livre du Lévitique, on dit que les deux seuls versets du Lévitique que vous connaissez, certainement, donc 19-18 et 19-34, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et 19-34, tu aimeras l'étranger comme toi-même car tu as été étranger au pays d'Égypte, ça a un peu plus d'importance que des dispositions extrêmement austères sur comment on doit mettre les charbons lors du sacrifice de telle manière dans l'arche du temple, etc., qui n'existe plus, etc. Bon. Alors après, vous vous appelez Origène, vous faites des commentaires spirituels hyper forts, et vraiment, l'histoire du charbon et de la taille des chérubins, ça vous explique comment il faut aller se confesser. Bon, très bien, mais ça demande un petit peu de la gymnastique un petit peu subtile. Bon, donc, dans l'Évangile, quand même, pareil. Bon, vous savez, cette phrase sur laquelle tout le monde, quand Jésus a dit, bon, là où est le corps, là se rassemblent les vautours. Oui, ça c'est vrai, là où est le corps, là où est le cadavre, là se rassemblent les vautours. Bon, ça c'est un propos de sagesse, si vous voulez. Bon, c'est quand même pas le cœur de la révélation de Jésus, si vous voulez. N'empêche, on peut pas empêcher Jésus de parler, de raconter des proverbes, de parler d'histoires, voilà, enfin de dire un aveugle guide un autre aveugle, tous deux tombent dans un trou. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin de la révélation, pas besoin de Jésus pour nous apprendre ça. Bon. Donc, par rapport au discours sur le pain de vie, par rapport aux paroles de la scène, par rapport à bienheureux, aux béatitudes, par rapport au Notre Père, bon, ben, le Notre Père et les béatitudes ont un gros coefficient. Maintenant, nous, par principe, on se refuse à dire, on va commencer à mettre des coefficients partout, à dire ça, c'est plus important. On admet que c'est ça, en pratique, parce que l'Écriture continue à vivre avec le peuple de Dieu aujourd'hui. Donc des potentialités de l'écriture apparaissent, d'autres passages eh bien, deviennent moins importants, et voilà, on avance. Il y a un travail passionnant qui a été fait par un étudiant du premier cycle sur, vous savez, le passage de la lettre de Pierre qui dit « Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous ». Ça continue comment ? Mais que ce soit avec douceur et, alors en général dans nos traductions, avec douceur et respect. Bon. Littéralement, phobos, c'est-à-dire la crainte. Pas respect, la crainte. Alors ce jeune étudiant a fait un travail très intéressant, d'abord pour dire que ça fait partie des versets qui sont très très importants, notamment depuis Vatican II. Mais enfin, on peut dire que dans l'histoire de l'Église, on ne l'a pas toujours valorisé, ce verset. Bon, premièrement. Donc il est allé voir quand est-ce que les pères de l'Église citent ce verset. Alors, pas tant que ça, déjà. Et deuxio, quand il le cite, il ne cite jamais avec douceur et crainte. En général, on coupe avant, sauf trois fois, vous voyez, trois fois sur huit siècles. Il y a un petit peu l'ampleur de l'oubli. Ensuite, il fait un deuxième travail pour dire, par rapport à comment c'est écrit dans la lettre de Pierre, il faut comprendre avec douceur vis-à-vis des hommes et avec crainte de Dieu. Or, c'est pas ce qu'on comprend actuellement beaucoup, avec douceur et respect envers les gens. Non, non, non. C'est pas le sens obvi du texte, d'après lui. Et il s'appuie sur des exégètes tout à fait sérieux, et à mon avis, c'est clair. Donc il faut tenir l'équilibre, bon, avec douceur envers les hommes, et respect et crainte de Dieu. La douceur ne va pas te faire admettre, au nom de la crainte de Dieu, des choses que tu ne dois pas admettre. Et puis, sur le rapport à la violence, l'esprit de douceur, c'est un mot praoetos, hein, praos, c'est quand dit, Jésus dit « je suis doux hein, », doux et humble de cœur, c'est un mot qui est rare, qui est 4-5 fois dans le Nouveau Testament. Et en fait, beaucoup de pères de l'Église sont quand même d'après 325, et surtout d'après 380, à commencer par le père de toute la théologie latine, qui est Augustin. Et il a trouvé un texte intéressant où Augustin utilisait ce verset pour dire « Il ne faut pas utiliser la force publique, la force impériale, les soldats, contre les hérétiques. » Notamment, en son temps, la plaie donatiste. Bon, les donatistes, ça serait un peu des super lefévristes, si vous voulez. C'est vraiment les purs, les durs, les gens... Bon. Donc le schisme donatiste est extrêmement puissant en Afrique du Nord, et les évêques catholiques n'arrivent pas à les raisonner. Et Augustin, pendant un certain nombre d'années, dit « Mais non, il faut aller les voir, puis il faut discuter, etc. » Puis à un moment, ils font un synode, les autres évêques disent « Augustin, ça ne marche pas ton truc. Nous, on a essayé une technique qui marche très bien. On envoie l'armée, on demande au gouverneur d'envoyer l'armée, on dit au mec « Vous signez le papier, on vous coupe la tête. » Et ça marche très très bien. Alors bon, au bout d'un moment, Augustin, il dit « Bon, écoutez, je vois que votre méthode, apparemment, ça marche mieux, donc je m'incline. » Et donc, il laisse tomber le « avec douceur et crainte ». Bon. Voilà, tout ça pour dire qu'un verset, on va le redécouvrir. Voilà, c'est ce verset, on le redécouvre beaucoup. Peut-être bien le comprendre aussi, non plus, pour ne pas passer d'un extrême à l'autre. Voilà, donc, ça, je crois que c'est une approche vraiment catholique, si vous voulez, de refuser par principe. Alors, l'expression technique pour ça, c'est d'établir un canon dans le canon. Ça, c'est l'expression de la théologie luthérienne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du canon des Écritures, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 20, voilà, bon, l'ensemble, quoi, on dit, voilà, alors les passages, le canon, voilà, les passages importants, c'est ça, ça, ça et ça, puis alors le reste, c'est vraiment deuxième plan. Et on le détermine. Vous voyez, moi je ne dis pas que tout est à la même valeur. Je dis juste, nous ne le déterminons pas ex cathedra, ex officio, en disant non, la lettre de Jacques c'est pas important, le Notre Père de Luc est moins important que celui de Matthieu, etc. Lévitique 2, vraiment, faut censurer tout ça, etc. Parce que c'est un ensemble, c'est un tout, et les versets sont dans un contexte aussi. Parce que sinon, il faudrait faire, vous savez, une version expurgée de la Bible. Vous dites, après tout, c'est comme une mine de diamants. Bon, enfin, il faut enlever un petit peu tout ce qui n'est pas important, là. Et puis, alors, vous faites une synthèse en 10 chapitres, 15 versets, ou ce que vous voulez, puis on enlève tout le reste. Mais non, parce que tout ça, ça se comprend dans un contexte. Et même les versets qui peut-être ont l'air moins importants, sont pour nous le témoignage de l'Esprit de Dieu cheminant dans l'histoire et aidant la communauté à progresser. L'histoire d'une révélation qui se fait main dans la main entre l'Esprit des hommes et l'Esprit de Dieu, comme va le dire le Concile, bon, faisant faire tout un travail à la théologie, parce que depuis la fin du XIXe, on a fait un chemin considérable. Hein. Encore il y a 100 ans, en gros, il y a 100 ans, c'est il n'y a pas longtemps, mon grand-père était vivant, il y a 100 ans, 1905, 1906, bon, la commission biblique dit, il faut absolument dire que, je sais pas quoi, il y a eu le déluge, qu'il y a eu Adam et Ève, qu'il y a eu machin, tout. Et si vous ne dites pas ça, vraiment, vous êtes un affreux hérétique. On a quand même progressé à partir de ce moment bizarre quand même de divino afflante spiritu. Moi, je suis toujours un peu étonné. Ça m'intrigue que cette grande encyclique libéralisant les études bibliques, c'est en 1943. En 1943 en Europe. Je ne sais pas, on se dit le pape, effectivement. Non, je suis méchant sur Pidouze parce qu'il a fait des choses quand même pour les réfugiés, et son message de Noël 42, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange. Il a libéralisé les études bibliques en pleine guerre. Bon. Alors ce qui est bien, c'est que c'est sans doute passé un peu inaperçu. Parce que même les ultra-conservateurs qui ont protesté, de toute façon, après la guerre. Il y a eu un scandale très célèbre en Italie où un groupe d'évêques et de théologiens italiens ont essayé de faire condamner les profs du biblique après-guerre. C'est sûr qu'en 1943, beaucoup d'évêques en Europe avaient d'autres chats à fouetter qu'analyser les passages latins qui arrivaient du Vatican sur comment il faut lire le Pentateuque. C'est vrai qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Mais du coup, ça a été utile. Donc, l'exégèse catholique, elle est complètement corsetée jusqu'en 1943. C'est il y a 70 ans, c'est pas très vieux. C'est 25 ans avant le Concile. Donc, voilà. Donc, je reconnais qu'en réalité, parce que j'ai souvent la question, avec les étudiants et tout, ça demande un certain travail. Parce qu'ils vont dire, mais si vous dites que telle parole, elle n'est pas de Jésus, sous-entendu, elle n'est pas du Jésus historique, ben, ça veut dire que c'est moins important, qu'elle a une valence moins forte. Non. Parce que c'est toujours Jésus ressuscité qui parle. Donc c'est pas la question de la source, enfin c'est pas le raisonnement historique que je vais faire sur les paroles de Jésus ou de Paul qui va me faire dire la valeur plus ou moins grande du verset. C'est le raisonnement ecclésial, c'est l'Esprit Saint inspirant les exégètes et l'Église qui va faire apparaître tel ou tel passage de l'Écriture comme plus pertinent pour parler aujourd'hui. C'est un autre raisonnement, c'est pas historique. Maintenant, on ne peut pas renoncer au travail historique de l'intelligence. Bon, par exemple, je prenais tout à l'heure l'exemple de « avec douceur et crainte bon. ». Comment il faut traduire ?« Avec douceur et respect » ou « avec douceur et crainte » ? Pas tout à fait la même chose. Bon, pour établir le texte, il faut bosser, il faut regarder les deux mots, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Alors, dans le Nouveau Testament, chez les Juifs du temps, dans la littérature grecque, bon. Alors statistiquement, alors le contexte proche, la lettre de Pierre, le milieu d'origine, enfin c'est tout un travail scientifique pour arriver à l'établissement du texte, pour que ce verset puisse être honoré dans ce qu'il veut porter et que dont on considère que l'Esprit Saint veut qu'il nous dise quelque chose. Voilà, donc tout texte d'exégèse ou de théologie biblique ne peut pas tout faire et ne peut pas instruire tout le monde. À partir des années 70, un certain nombre de théologiens, dont Joseph Ratzinger, s'appuyant sur la théologie canonique, ont dit, bon, tout article de théologie doit finir, tout article d'exégèse doit finir par un développement théologique nourrissant de la foi de la communauté. Moi, je dirais, oui, dans le projet. Mais pas forcément tout article. Parce que, moi, si je fais un article technique sur praoethos, sur praos, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, d'où à l'époque ? Le mot, quand il est employé chez les Grecs, dans les tragédiens, chez Philon d'Alexandrie, qu'est-ce qu'il veut dire ? Je ne vais pas faire non plus un article de 225 pages, où je vais finir par toute une théologie de la douceur du Christ. Peut-être d'autres le feront à partir de mon article. Donc, des articles purement philologiques, ou hyper techniques, ou de critique textuelle. C'est-à-dire, mais quel est le texte ? Au baptême de Jésus, dans Luc, qu'est-ce qu'il dit ? Que dit la voix ? Elle dit, moi aujourd'hui, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour, ou tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le psaume 2 ou l'autre. Bon. Regardez les manuscrits, c'est 50-50, c'est très compliqué. Bon, bref. Donc il y a un travail d'établissement du texte dans lequel il faut regarder le saïdique, le copte, la pshita araméenne, le machin, alors le sinaiticus, je regarde à la loupe. Bon, alors, je vais faire tout un travail pour essayer de dire probablement dans la version de base, voilà ce que Luc avait écrit. Je ne peux pas forcément, dans le même article, faire une grande théologie du baptême dans Luc ou du baptême en général. Mais cet article va servir pour ça. Voilà. Alors, l'autre exemple que je prends en cours, c'est dans Jean, parce que Jean s'y prête bien, bon, je suis le chemin, la vérité et la vie. Une première question, vous dites, bon, le 29 mars de l'année 29, au bord du lac, à 9h du matin, Jésus a dit à ses disciples, on va faire une petite leçon de catéchèse, je commence par « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et puis alors Marc, Matthieu et Luc étaient distraits, ou la première, enfin, hop, passé au travers. Oui, c'est pas très important. Bon. Ou vous vous dites, si vous l'aimez, Jésus, on ne parle pas comme ça. C'est Jésus ressuscité qui parle, c'est Jésus d'auprès du Père, c'est le Jésus joannique, mais qui est un Jésus joannique qui dit régulièrement, vous ne pouvez pas encore porter ça, je vous parlerai autrement. Bon. Jean y croise complètement. Dans tout le début de Jean, c'est déjà un Jésus complètement glorifié auprès du Père qui parle. Donc, je fais un raisonnement historique et psychologique pour dire Jésus n'a pas dit ça dans son ministère galiléen. Mais non. Il ne faut pas que j'en tire la conclusion, c'est faux ou c'est pas important. C'est totalement vrai et c'est totalement important. Maintenant, c'est effectivement Jésus ressuscité, présent dans son église, dans son évangéliste, et dans cette tradition du disciple que Jésus aimait, enfin dans la tradition joannique, qui fait parler Jésus comme ça. Alors, on va voir si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je propose la chose suivante de notre écart de situation historique. En 1880, les chrétiens, confrontés au scientisme, au sécularisme agressif, ridiculisant leur foi, bon, dans la série « Droit dans les bottes », on défend tout intégralement. Donc, l'apologie chrétienne disait « Jésus a effectivement dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » parce que c'est dans Jean, que Jean ne peut pas mentir, et que voilà. » Qu'est-ce qui prouve que Jésus voilà, est vraiment Dieu, le Messie tout? Mais regardez ces phrases dans Jean, ça prouve bien qu'il l'est. À mon sens, aujourd'hui, 120 ans plus tard, on est beaucoup mieux armé pour lire autrement ces propos. Et du coup, ça deviendrait presque, je vous dis mon avis à moi, je serais presque embêté que Jésus, historiquement, ait dit à un certain moment « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup réfléchi avec Philippe Lefebvre sur ce que c'est un Messie, sur voilà, puis qu'est-ce qui se joue dans la reconnaissance d'une foi et d'un amour entre deux personnes. Eh bien, c'est humble, c'est discret. Et ça passe pas par des moi-je. Voilà. Donc, je trouverais ça plutôt embêtant si quelqu'un me dit « Non, on a trouvé un papyrus, là, ça date vraiment de la fin des années 20, parce qu'on peut dater au carbone 324, non, je sais pas quoi. » Et donc, Jésus a dû dire ça. Moi, je serais embêté parce qu'un Messie ne parle pas comme ça, précisément. Et que moi, je pense que le Messie qui dit « Toi, que dis-tu ?» qui parle en fils de l'homme, le fils de l'homme, qui dit « À la charge de la preuve. » Ce n'est pas un Messie qui a moins conscience de ce qu'il est, mais c'est un Messie dans lequel il y a un processus de reconnaissance. Et pour vous, qui suis-je ? Enfin, ce Jésus de César et de Philippe est pour moi plus crédible humainement et psychologiquement qu'une espèce de Jésus qui passerait son temps tous les matins à dire « Je suis le Messie, vous êtes bien d'accord ?» C'est comme l'amoureux qui dit « Bon, voilà, je t'aime, tu m'aimes, et laisse-moi répondre, enfin, je veux dire, la personne qui s'impose dans une relation humaine. Une relation authentique au plan humain, vous laissez l'autre vous reconnaître, vous installer. Donc ce qui apparaissait comme une apologétique utile en 1880, et sans doute ils n'avaient pas le choix les chrétiens, fallait défendre Verdun, enfin, je veux dire, fallait être dans les tranchées, nous apparaît aujourd'hui presque un handicap. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on a les outils philosophiques et herméneutiques, parce qu'on a eu Voilà, on a eu Henri-René Maroux, on a eu Hans-Georg Gadamer, on a eu Paul Ricoeur. On pense autrement le rapport à l'historicité, on pense autrement le rapport à la psychologie du Christ, qui nous permet aujourd'hui de vivre très tranquillement le fait que ce travail historique que nous faisons, enfin que fait John P. Meyer, je ne le fais pas moi, mais enfin, que font ces historiens pour essayer de s'approcher humblement et prudemment du Jésus historique. Sachant que quand vous êtes un historien, vous êtes parlé en termes de probabilité, que ce soit pour Jules César, Napoléon ou Jésus. Bon. On sait déjà beaucoup de choses sur Jésus. Ce n'est pas un mythe, c'est vraiment quelqu'un qui s'est appelé Jésus de Nazareth, etc. On peut vraiment être très certain là-dessus. Et en plus, on peut penser qu'on a beaucoup de ses paroles et de ses gestes authentiques. Bon. Et on a des arguments et une cumulation d'arguments pour le dire. Maintenant, le fait de dire, voilà, est-ce que Jésus, l'exemple que je prenais hier dans le cours sur Jean, le discours sur le pain de vie, voilà, après la multiplication des pains en Galilée, qu'on connaît par Marc, Luc et Matthieu, bon, il s'est passé un truc un peu bizarre avec des pains, bon, enfin voilà, les gens, enfin, c'est vraiment ce souvenir s'en est gardé. Et puis Jésus, après, il est parti dans une catéchèse de 2 heures sur « Je suis le pain vivant », etc., etc., anticipant complètement donc l'Eucharistie qui allait être réalisée au Jeudi Saint. Moi, je trouve ça génial de la part de Jean. Mais pas génial au sens de que Jésus a dit tout verbatim de ce qu'il y a dans Jean 6. Saint Jean, il fait une double opération. Il dit, on arrive au Jeudi Saint. Tout le monde là, tous, parce qu'ils le font, chaque Eucharistie. Je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu, le Seigneur Jésus prie. Ben, tout le monde le sait. Bon. Alors on est là, dernier repas, Judas, et puis Jésus, qu'est-ce qui se passe? Il dit rien. Il n'y a rien. Saint Jean, je vous ai bien eu, hein. Lavement des pieds. On dit, ah, il y a un repas. Oui, d'accord, mais enfin quand même, mets-nous un peu ce qu'il a dit lors de ce repas. Et Jean, il dit, mais attendez, vous êtes tous là à dire ce repas, vous communiez. Vous comprenez le sens de ce qui est en jeu? Bon. Donc il dit, le vrai sens de la communion, c'est le service mutuel et le lavement des pieds les uns des autres et le service mutuel. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien la communion. C'est ça qu'il dit, en gros. Par ailleurs, il dit, bon, mais alors l'Eucharistie? Ah. Donc vous croyez vraiment que Jésus, la veille de sa mort, tout d'un coup, il a eu une idée géniale, il a dit « je vais donner ma nourriture à manger » et voilà, brillante idée, il s'est levé le Jeudi Saint matin, qu'est-ce que je vais sortir comme truc? Et ça lui est venu, et paf, il a sorti ça. Et Jean y dit « mais non, réfléchissez, depuis la première minute de son ministère en Galilée, quand il était pressé par la foule, qu'il n'avait plus le temps de manger, que les gens venaient à lui comme des brebis sans berger pour l'écouter se faire guérir, il était pain donné, il était Eucharistie depuis la première minute en Galilée. Et donc je vous mets le discours eucharistique au début, en Galilée, en Jean 6. C'est puissant théologiquement comme affaire. Mais justement, on n'est plus dans un rapport, si vous voulez, historico-historique, au fait de qu'est-ce que Jésus a dit et fait le 29 mars 29 ou la veille de sa mort. Jean essaye tout de suite d'aller directement au sens théologique profond de ce qui est en jeu. À mon avis, en supposant en gros des choses analogues à ce qu'il y a dans nos évangiles. Et puis de toute façon, l'Eucharistie qui devait célébrer ne devait pas être quand même fondamentalement différente de celle des Pauliniens ou des Pétriniens. Dire bon, le baptême, l'Eucharistie, c'est la base depuis le début. Bon, alors c'est un grand débat terrible, qu'est-ce que Jean connaissait des synoptiques? Bon. Et si jamais on veut dire, Jean, tu exagères quand même. Alors regardez que Luc, tout différent qu'il soit de Jean, il fait un peu la même chose. Parce que Luc, en Luc 22, donc le discours d'adieu de Jésus, il va y avoir la scène avant la passion, en Luc 22. Au cœur du discours, c'est Roland Méné de la Grégorienne qui l'a bien montré, au cœur du discours d'adieu de Jésus, il y a « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous m'appelez, etc. » Vous voyez ce petit passage que vous connaissez tous, donc juste au milieu de Luc, 22. Quel est en effet le plus grand? Alors, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, celui qui gouverne comme celui qui sert, l'esclave. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert à table? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors moi, je dis ça, c'est le lavement des pieds de Luc. Deux versets. Et c'est exactement la même idée que Jean. Dit autrement. Voilà, donc nous aujourd'hui, on peut à la fois honorer la dimension rationnelle de notre foi, la recherche de notre intelligence. Bon. Je veux dire, savoir après tout, est-ce que Jésus est mort le jour de la Pâque, la veille, est-ce qu'il a pris du pain azim, du pain bidule, du challah, de la brioche, la baguette, enfin je sais pas, moi ça m'intéresse. Bon, maintenant c'est pas fondamental non plus, mais enfin c'est intéressant, on cherche à savoir, parce que Jésus nous intéresse. Bon, donc il y a toute cette recherche historique, et par ailleurs il y a la recherche théologique, par laquelle tous ces textes nous sont donnés pour notre foi, sont inspirés par l'Esprit, qui viennent de Luc ou de Jean, voilà. Et normalement, je pense, on devrait éviter radicalement tout fondamentalisme ou tout risque de se fixer sur le texte, du fait même qu'on a quatre évangiles et que ces quatre évangiles ne sont pas facilement ou immédiatement harmonisables. Alors, vous prenez l'évangile de l'enfance selon Luc et selon Matthieu, vous allez transpirer, hein. Parce qu'il y a quand même deux points communs et c'est tout. La maman s'appelait Marie. Hein, et le papa légal s'appelait Joseph. Une fois que vous avez dit ça, tout le reste est différent. La généalogie, machin, l'Égypte, tout ça. Bon, alors, comment vous vous en tirez? Et puis vous arrivez à la Passion. Alors, le dernier repas de Jésus, Pascal ou pas Pascal? Et bien là, Jean, les synoptiques, pas d'accord. Et puis, avant de mourir en croix. Alors Jésus, il avait de la salive, hein, parce que les sept paroles du Christ en croix, dire bon, mais puis c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Alors qu'est-ce qu'il a dit historiquement, là, vérité vraie, etc. Bon, vous vous en sortez pas avec du fondamentalisme, justement parce qu'on en a quatre. Et c'est ça qui est génial, c'est que la révélation a voulu, l'Esprit Saint a voulu, et l'Église primitive, moi ça c'est un truc, j'en reste baba encore aujourd'hui, qu'ils aient pas fait un synode en 225 pour dire bon. Ce qu'a fait le calife Omar après 40 ans. Il dit, bon, on rassemble tous les Corans, on en prend un, on vire tout le reste, et puis on n'en parle plus. C'est ce qu'ils ont fait, les musulmans. Bon. On sait qu'il y avait différents Corans, qu'il y avait différentes variantes. On arrive encore à retrouver des trucs. Bon. Ils n'ont pas dit, bon, allez, hop, Marc, je vous ai dit, Marc, on en avait honte, les pères de l'Église le cachaient parce que c'était mal écrit. Bon, alors, chut, on vire Marc. Bon, Jean, non, les gnostiques l'utilisaient, on vire Jean. Bon, alors, Luc et Matthieu. Alors, Matthieu, l'évangile ecclésial, celui que les pères de l'Église ont le plus commenté. Bon, qu'est-ce qu'on lit dimanche avec Matthieu. Donc, Luc, finalement, soit on vire. Soit on lit ça le soir avant de se coucher. Mais bon, au moins, on a un évangile. Et comme ça, on sait au moins ce que Jésus, tout, on a un évangile. Eh bien, ils n'ont pas fait ça. Moi, je trouve ça génial. Il y a eu une reconnaissance, vraiment, de la grande Église, la grande communauté, que ces quatre évangiles... Alors aujourd'hui, on vous bassine avec les évangiles gnostiques. Il n'y a jamais eu le débat. C'est des textes très particuliers, de groupuscules, vraiment, que nous, on dirait aujourd'hui, complètement sectaires, du désert d'Égypte, gnostiques, etc., qui ne ressemblent pas du tout à des évangiles. Prenez l'évangile de Thomas, je vous avais cité le Logion 114. Bon. Il n'y a jamais eu photo, il n'y a jamais eu débat, il n'y a jamais eu un concile où ils se sont dit, tiens, est-ce qu'on prend l'évangile de Thomas? Jamais. Ça, c'est un truc moderne, il y a 30 ans, d'Américains farfelus. Personne, bon. Voilà, c'est des textes complètement... c'est un peu différent, le proto-évangile, les textes des évangiles apocryphes non hérétiques, beaucoup plus tardifs, le bœuf et l'âne, là, tout ça, le proto-évangile de Jacques, tout ça, des récits un peu édifiants où Jésus fait des petits miracles quand il est enfant. Bon. Mais bon, ça c'est voilà, c'est gentil, mais ça, personne n'a jamais dit de faire entrer le proto-évangile de Jacques dans le canon. Enfin, je veux dire, pas traverser l'esprit à quelqu'un. Donc les choses ont, voilà, l'esprit a inspiré quatre évangiles différents. Alors, j'ai fait le raisonnement là beaucoup sur Jésus. Analogiquement, ça vaut aussi pour Paul. Ou pour Pierre, ou pour Jean d'ailleurs. Ce n'est pas le même homme qui a écrit l'Apocalypse de Jean, l'Évangile de Jean, et sans doute les deux et trois Jean. Un Jean, Évangile, on peut discuter. Bon, et ben voilà, il y a une trajectoire joannique, il y a une trajectoire paulinienne, il y a une trajectoire jacobite, lettre Genève. Il y a des trajectoires avec des inspirations, et tout est inspiré. Et on vit ça très tranquillement. Alors, certains chercheurs vont essayer d'établir les milieux de production, le texte de base, comment comprendre, etc. Et puis oui, et là, Joseph Ratzinger et les autres ont raison, oui, après, il faut faire une lecture canonique. Bon, comment tout ça, ça s'intègre, comment ecclésialement on le lit, bien sûr. Mais tout ça a droit de cité. Donc, si je prends cet exemple-là de l'article que j'ai mis sur ma page du site de Sèvres, si ça vous intéresse, qui est sorti en janvier, là, sur le fils prodigue. Moi, au début, j'étais un peu agacé, parce que vous lisez beaucoup d'introductions à Luc, ou des introductions où on vous dit, la parabole du fils prodigue ne se trouve que dans Luc, c'est le, Sondergut Lucas, en allemand, le bien propre de Luc, un truc magnifique, et qui est arrivé par une tradition unique, bon, juste là, à Luc. Alors que moi, depuis des années, quand je dis des années, vraiment longtemps, il y a 15 ans, j'étais convaincu, donc j'ai découvert avec beaucoup de monde, y compris même certains pères de l'Église, que les deux paraboles du Nouveau Testament qui commencent par un homme avait deux fils étaient substantiellement, fondamentalement la même. Vous la voyez l'autre, donc, dont je parlais tout à l'heure, dans Matthieu. Personne ne la connaît, mais elle est importante. Donc, voilà, je rappelle. Alors, est-ce que je vais la retrouver du coup ? Voilà, 21. Je dis 22, c'est 21, toujours comme ça. Voilà, alors, dites-moi votre avis. Un homme avait deux fils. Bon, s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va-t'en aujourd'hui travailler à la vigne ? Je ne veux pas, dit-il. » Ensuite, pris de remords, il y alla. Un mot en grec. Pour moi, Luc est parti de ce mot-là. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, « Entendu, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Le premier, disent-ils. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, etc. Bon, alors c'est une parabole galiléenne de Jésus. Bon, ouais, je défends cette idée, mettons, supposons. Donc, comme toutes les paraboles de Jésus, c'est assez bref, assez schématique, avec des personnages plats. Bon, un homme, deux fils, etc. L'un, l'autre, toc, la... Bon. Et Luc aurait la version de la source Q, de la source des Logias, c'est-à-dire... le texte qu'il a en commun, que Luc et Matthieu ont en commun, vous voyez quand je dis ça, c'est-à-dire que dans l'hypothèse standard, Luc et Matthieu, pour écrire leurs évangiles, ont deux sources principales, l'évangile de Marc, qu'ils reprennent à 98%, et une source qui a tout un certain nombre de paroles à la suite, les béatitudes, notre paix, beaucoup de choses, et que Luc et Matthieu reprennent en réécrivant un peu, mais en gros reprennent. D'accord ? Donc cette source, personne ne l'a jamais trouvée. Et elle est composée par définition scientifique et théorique de tout ce qu'il y a en commun entre Matthieu et Luc. Bon. Sauf que justement, la majorité des exégètes disaient non, non, pas cette parabole, c'est trop différent. Alors moi je dis, mais est-ce que c'est si différent que ça ? On a un premier fils qui dit non, qui s'en va, mais qui pris de remords revient, bah, c'est le fils prodigue pour moi dans la parabole du fils prodigue. Et puis l'autre qui a dit oui, mais qui n'a rien compris, qui n'est pas dans le cœur du père, et qui à la fin montre bien qu'il est, il n'est pas dans le coup, quoi. Il n'est pas en syntonie avec son père. Mais comment, mais bon, il dit, moi je suis l'orthodoxe, le pharisien, j'ai tout fait bien, bon, mais il n'a rien compris. Bon, donc je dis substantiellement au niveau du scénario, c'est la même parabole. Sauf que Luc, qui pense à ses auditeurs gréco-latins, qui petit a, la moitié des procès de l'époque au moins, c'est des procès d'héritage. Et il y a un truc, une histoire qui fait rire tous les Romains. C'est tout le monde raconte cette histoire. C'est toujours le père qui dit, moi j'ai un problème, j'ai deux fils. Alors j'ai un garçon, n'importe quoi, il dépense son argent avec les prostituées, il va au théâtre, il fait rien de bien. Et l'autre est vachement sérieux, je sais pas comment je vais me débrouiller, parce que je sais pas quoi faire avec le premier, etc. Bon. C'est un truc ultra banal, tout le monde connaît ça chez les Grecs et les Latins. Donc Luc, il dit, je vais m'appuyer sur ce schéma-là, en donnant l'histoire de l'héritage, même si c'est périphérique pour la pointe de la parabole. Et voilà. Et puis, comme c'est un superbe conteur, Luc, avec un vocabulaire très riche, prenez la tempête, prenez l'évangile d'aujourd'hui, là, le riche et Lazare, tout ça, c'est bon. Luc, les chiens viennent lécher les plaies, les cochons mangent des gousses, il aurait bien voulu manger. Alors, il y a des monologues, tout ça c'est génial, il en fait tout un roman. Mais c'est la même parabole, avec un peu de grâce, vous voulez, un peu de peinture. La même histoire. Voilà, donc c'est pas moi qui ai inventé ça, donc il y a des grands exégètes avant qui l'ont dit. Simplement, c'est une option tellement minoritaire qu'elle n'est même pas dans les commentaires standards de Luc. C'est ça qui m'a un peu agacé, donc j'ai essayé de dire, non, il faut reproposer cette vision. Alors, tout ça pour dire, bon, au nom de mon intelligence, bon, après, les gens vont être convaincus ou pas. On est un certain nombre à dire ça, depuis les pères de l'Église. Bon, alors, est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on a raison? Alors, en termes d'intelligence, bon, voilà, on va discuter. Après tout, que Jésus ait dit, alors il y a des gens qui disent, oui, alors Jésus, en fait, le 29 mars, il a dit la parabole comme dans Matthieu. Puis il a réfléchi, il allait faire une retraite chez les jésuites, tout ça, il a pris du temps, et il a raconté la parabole comme dans Luc. Et c'est pour ça qu'on l'a deux fois. Hein? Parce que le 24 juin, il a fait la version 2.0, un peu enrichie. Pourquoi pas, hein? Après tout, Jésus a le droit de raconter plusieurs fois les mêmes paraboles, de les bidouiller, de les enrichir, etc. Il ne devait pas non plus avoir un stock de 10 000 paraboles. Bon. Qu'est-ce qui est le plus probable, historiquement? Après, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de l'Esprit-Saint, nous, on a les deux. On a deux paraboles et deux seulement qui commencent par un homme avait deux fils. Alors quand je prends cet exemple aussi scientifique, moi j'ai lu dans tous les commentaires, alors ça jusqu'à l'an dernier je n'ai pas les vérifiés, on dit oui la parabole un homme avait deux fils, c'est très classique à l'époque dans le judaïsme, blablabli, blablabla. Bon, allons voir. Alors vous allez voir les gens qui ont travaillé ça. Puis vous découvrez qu'en fait pas du tout. À la tête deux ou trois sur 1500 paraboles, de moins 300 à plus 1500, vous en trouvez, vous trouvez une fois un roi avait deux fils. C'est vrai qu'un homme, un roi, il y a beaucoup de paraboles qui commencent par un roi. Une qui commence un roi avait deux fils, et puis à un moment, il y a un paysan qui a six fils. Bon, mais enfin, il y a un peu, il dit à l'un, vous en faites deux. C'est pas non plus général. Bon. Donc ça plaiderait plutôt pour dire que bon, ce schéma, un homme avait deux fils, c'est pas aussi original et que bon, Jésus l'a pris pour faire passer un message théologique. Voilà, donc ma pointe, c'est légitimité du travail historique, tant sur les évangiles que sur les lettres de Paul, pour essayer de comprendre qui les a écrites, dans quel contexte, et en même temps, acceptation dans la foi et dans l'Esprit Saint que tous ces textes sont pour notre salut intégralement. Maintenant, on marche avec deux jambes. Voilà. Donc, je conserve les deux jambes, j'avance comme ça. Et de ce point de vue-là, depuis au moins une cinquantaine d'années, et au moins depuis 43 dans l'Église catholique, on vit une époque formidable. On peut enfin marcher sur nos deux pieds. Et moi, j'ai une grande admiration pour le père Lagrange et tous ces exégètes des années 10 et 20 à qui ont tapé sur les doigts en disant il ne faut pas dire que ça et ci, etc. Bon, alors, vous avez le loisir, il y en a qui ont quitté l'Église, il y en a qui ont été excommuniés, etc. Et puis, il y en a qui ont accepté de rien publier pendant 15 ans, de continuer à travailler silencieusement, etc., en attendant que les choses bougent. C'est quand même assez incroyable. Donc, aujourd'hui, on a le pape... vous imaginez Léon XIII, Saint Pie X, lisant Jésus 1 et 2 de Ratzinger. Mais il a une attaque cardiaque. Il a une attaque cardiaque. Le pape lui-même, non, alors pas le pape, très bien, le théologien Joseph Ratzinger qui se trouve être pape, mais quand même, qui dit « j'écris pas comme pape », mais quand même, qui est le gars qui est élu pape, qui dit « oui, il y a contradiction entre l'évangile de Jean et les synoptiques sur la date de la Passion ». Bon, alors, j'ai lu Annie Jobert, et j'aimerais tellement que ça marche, qu'on concilie les deux calendriers en disant « oui, Jésus, en fait, il a utilisé le calendrier, c'est bien à ce moment-là, et toc, on arrive à s'en tirer », ça marche pas. Tout le monde a dit « brillant sa tentative, ça a convaincu personne ». Il fait deux pages, j'aimerais tellement que ça marche. Ça marche pas. Non. Donc il y a un problème. Et in fine, je pèse les arguments, je lis John Mayer, je lis Tartampion, et je dis c'est sans doute Jean qui a raison d'un point de vue historique. Donc là, il raisonne en historien. Et puis après, théologiquement, il va faire un développement théologique sur le jeudi saint, etc. Bon. Mais alors ça, il y a 100 ans, vous imaginez? Vous ne pouviez même pas dire qu'il y avait des problèmes de datation, des problèmes historiques, quoi. Voilà, donc on vit une époque formidable et on va donc faire une pause de 10 minutes pour reprendre à 5. Bon. Alors, je ne crois pas qu'on était hors sujet, sachant que compte tenu de mon programme, il y a encore 3 séances, donc il y a du temps pour traiter du mystère de la lettre aux Romains, à la fois Romains 9 à 11 et mon dernier point, c'est-à-dire pourquoi la lettre aux Romains. Donc moi, je suis tout prêt à prendre encore des questions, s'il y en a, tout ce que vous avez toujours voulu demander. Sur Saint Paul, le Nouveau Testament, le Codex de Bèze, la Pshita, je ne sais pas. Donc il y avait une question à ma gauche là, de base, mais c'est toujours les bonnes questions. Toujours les questions que posent les enfants qui sont les meilleures. Pourquoi les disciples d'Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus? Et non, mais les questions les plus, voilà, franco de port.
Paul, dans la lettre aux Galates, défend sa...
Son apostolat.
Son apostolat.
Je vous écoute.
Sa visée n'est pas tant de... Elle n'est peut-être pas... de... reconnu comme apôtre, comme... comme témoin.
C'est une affirmation plutôt qu'une question.
Oui, c'est une remarque, en fait. C'est-à-dire que si... sa visée vraiment n'est pas vraiment de défendre plutôt la qualité de cette révélation que.
Non, mais le point de Paul n'est jamais de se défendre pour lui-même. Je veux dire, lui, il se fout de lui. Le problème, c'est les communautés. Ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'on dise que les chrétiens qu'il a baptisés sont des chrétiens de deuxième zone. Qu'il a baptisés. Qui sont devenus croyants grâce à lui et qui ont été baptisés par d'autres dans ces églises. Bon. Et qu'on commence à dire, il faut un autre christianisme, il faut des vrais apôtres. Il n'est contraint de redéfinir son apostolat, de le fonder sur l'apparition de Jésus, etc., que parce qu'on met en cause ses communautés, et indirectement donc lui-même. Donc, au sens Paul, il ne défend pas son honneur, il s'en fout, ce n'est pas le problème. Il défend ses communautés. Alors, ce n'est pas qu'il cherche une légitimation. Alors, on va y revenir sur la lettre aux Romains. Bon. Parce que l'hypothèse qu'avec d'autres je défends, c'est que profondément, c'est de ça dont il est question dans la lettre aux Romains. Je veux dire par là, Paul dit, mais reconnaissez-moi pour ce que je dis vraiment. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de légendes sur mon compte. Mais je ne suis pas un poor lonesome cowboy. Je ne suis pas un guerrier solitaire, un apôtre qui se fout du reste du monde. C'est le contraire de ce que je suis. Et cette collecte qu'il fait pour Jérusalem en est la marque. Donc, ce n'est pas que Paul veuille être légitimé. C'est que le fait d'être reconnu comme apôtre, ça veut dire que ces chrétiens seront reconnus comme chrétiens de plein droit. Il ne se défend que pour les défendre eux. Et pour que le doute ne s'instaure pas dans leurs esprits, avons-nous reçu vraiment le bon évangile? Alors c'est là où il veut faire beaucoup d'humour. D'abord, il n'y en a qu'un évangile, en fait, au fond. Bon. Alors le mien, le sien, celui d'Apollos, de Kéver. Au bout du compte, il n'y en a qu'un. Bon, il n'y a qu'un baptême, qu'une eucharistie, qu'un évangile. Bon. Après, il y a des manières de mettre des conditions. C'est là où il y a un mon évangile. Mon évangile, ça consiste à dire qu'on est chrétien de plein droit une fois qu'on a accueilli Jésus dans la foi, qu'on a été baptisé et qu'on participe au sacrement. Voilà. Et alors, être circoncis, pas circoncis, manger du cochon gratté ou pas, tout ça, c'est secondaire. Donc, voilà, c'est ça son point. Donc, je maintiens que dans la lettre aux Galates, de fait, Paul ne parle de lui dans les deux premiers chapitres que dans la mesure où, manifestement, il est attaqué, qu'il y a certaines personnes de l'entourage de Jacques, non, j'ai pas dit Jacques, j'ai dit certaines personnes se revendiquant de lui. Donc, il faut toujours se méfier. Hein. Les gens viennent nous voir. Moi, j'ai vu le supérieur général, j'ai vu le pape. Mais d'accord, bon, moi, je veux bien, mais enfin, j'attends que la personne s'adresse à moi directement. Bon, donc, ces certains-là, viennent perturber, ensorceler les Galates sans intelligence. Bon. Donc, en soi, Paul, je veux dire, il sait ce qu'il a vécu sur le chemin de Damas. Bon, il n'est pas... Il ne veut pas en parler, ce n'est pas son problème. Il a été constitué apôtre et ça a été reconnu, validé, j'allais dire, par ses souffrances, d'une part, et par l'efficacité de sa parole ministérielle et apostolique. Bon. Alors, s'il est attaqué, il se défend, pas pour lui, mais pour les communautés qu'il a fondées. Oui ?
Mais est-ce que cette expérience...
Aux autres, oui. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Oui. Moi, je pense. Non, je ne suis pas sûr d'avoir compris, donc préciser. Apostolique.
De témoigner, en fait, de la réalité.
Oui, mais alors attention, pas au sens où il dirait « Moi, je suis le mec qui a vu Jésus, et pas les autres. Et j'ai eu une super apparition, super extraordinaire, qui fait que je suis un meilleur apôtre que les autres. » Il ne dira jamais ça, Paul. Et il ne dit pas « Apollos n'a pas eu le chemin de Damas, donc il n'est pas un bon apôtre. » Ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très particulier sur, on va dire, les phénomènes extraordinaires. Alors, le mot mystique est piégé de chez piégé. Mais quand Paul parle de sa crédibilité apostolique, il met en avant des choses communes, des vertus communes. Si vous prenez l'apologie de Paul, qui est 2 Corinthiens 10 à 12, hein, donc c'est les trois chapitres de 2 Corinthiens qu'on appelle la peri-autologia, c'est-à-dire l'auto-éloge de soi fait par Paul, hein, où il se défend, avec beaucoup d'ironie, hein, sa façon, certes, nous n'avons pas l'audace de nous égaler, ni de nous comparer à certaines personnes qui se recommandent elles-mêmes. En se mesurant eux-mêmes à leur mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous n'irons pas nous glorifier hors de mesure, mais nous prendrons comme mesure la règle même que Dieu nous a assignée pour mesure. C'est celle d'être arrivé jusqu'à vous. Il dit pas la main. Eh bien, c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile. Ben, c'est comme ça. Et les autres sont arrivés après. Bon. Donc, on a porté l'évangile. Alors, c'était la fin du 10. J'estime, le 11.5, j'estime pourtant ne le céder en rien à ces archi-apôtres, à ces super-apôtres. Bon. Alors, bon, d'abord, premier argument bien concret, l'argent, les finances. Donc, je n'ai demandé rien, on a rien à la personne et j'ai travaillé de mes mains. Alors, ce dont ils se vantent, c'est en essence que je parle, je peux m'en vanter moi aussi. Verset 21. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. Fils d'Abraham, moi aussi. Ministre du Christ. Je vais dire une folie. Moi, plus qu'eux. Bien plus par les travaux. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est concret, ça n'a rien de, c'est pas Damas. Bien plus par les emprisonnements. Infiniment plus par les coups. C'est l'apostolat par les coups. Paul, il dit, j'ai reçu plus de coups que tout le monde. Il dit pas, j'ai vu Jésus en 3D, stéréophonie, et il m'a parlé en direct sur le chemin de Damas. On va voir après comment il en parle. Bon, souvent, j'ai été à la mort. 5 fois, j'ai reçu les 39 coups de fouet. 3 fois, des juifs. 3 fois, j'ai été battu de verge, donc par les licteurs, par les autorités civiles. 1 fois lapidé, confère acte. 3 fois, j'ai fait naufrage, 1 fois dans acte. Il m'est arrivé de passer un jour et une nuit dans l'abîme. Pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, il n'était pas frais. Voyage sans nombre, danger des rivières, des brigands, de mes compatriotes, des païens, de la ville, du désert, de la mer, des faux frères. Verset 27. C'est ce qui met en avant. Labeur et fatigue et sueur. Veille fréquente. Veille, ça veut dire quand Jésus se lève la nuit pour prier. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Faim et soif. Ça, on n'a rien à manger, rien à boire. C'est comme ça. Jeûne répété. Ça, c'est non seulement... Ça, c'est volontaire. Faim et soif, ça veut dire, de temps en temps, j'ai rien eu à manger. Bon. Jeûne répété, ça veut dire que je, comme tous les premiers chrétiens, 2 fois par semaine, je ne mangeais rien, je jeûnais pour le Christ. Bon. Froid et nudité, ça m'est tombé dessus. J'étais en prison à Éphèse, j'étais sur un bateau, ça caillait, j'avais pas de couverture, donc j'ai eu froid. Sans parler du reste, mon obsession quotidienne, le souci de toutes les églises. Bon. Après, il raconte l'histoire, comment il est sorti de Damas dans un panier par la fenêtre. Bon. 12. Il faut se vanter. Cela ne sert à rien. Bon, j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Ok, vous voulez me défier sur ce terrain? On va y aller. Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce en son corps, je ne sais pas, hors de son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Cet homme-là fut emporté jusqu'au troisième ciel. Donc c'est de lui qui parle. Et cet homme-là était-ce en son corps, je ne sais pas, Dieu le sait. Je sais qu'il fut emporté jusqu'au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Pour cet homme-là, je me glorifierai, mais pour moi, je ne me glorifierai que de mes faiblesses. Alors, il y a tout un débat là-dessus. Est-ce que c'est ironique? Est-ce que, en gros, il dit, voilà, je ne vais pas parler de tout ça, mais il en parle quand même. Bon, enfin, il dit, j'ai entendu des paroles et je ne vous les dirai pas. Or, normalement, dans ce type de ravissement au ciel, qui est un genre littéraire de l'époque, vous dites, voilà ce que l'ange Gabriel m'a dit. Ben, si vous avez rencontré l'ange Gabriel ou le Christ en personne, ça vaut mieux dire ce qu'il vous a dit. Bon. Alors, après, il y a l'histoire de l'écharde. Par trois fois, j'ai prié. Bon. C'est donc de grand cœur que je me glorifierai dans mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Verset 9. Alors, me voilà devenu fou. Verset 11. C'est vous qui m'y avez obligé. Donc, à parler des visions. Car je n'ai été en rien inférieur à ces archi-apôtres, bien que je ne sois rien. Toujours la correction. J'ai bossé plus que tout le monde et je suis le meilleur, mais enfin, je suis rien du tout. Bon. Alors, voilà le verset qui m'intéresse par rapport à votre question. Les traits distinctifs de l'apôtre ont été accomplis chez vous. Deux points. Parfaite constance, hypomonée, la vertu paulinienne par excellence, la constance, c'est à la portée de tout le monde, comme l'a regretté Jane Austen, nous l'a bien montré dans Pride and Prejudice, qui était mon mémoire de premier cycle. Constance et courage, chez McIntyre, relisant Jane Austen. J'espère que vous avez lu Orgueil et préjugés. Magnifique. Bon. Constance. Quand Darcy s'en prend plein les dents, ok, il lâche pas, battu au point, il se retire et il reprend le morceau. Donc, constance. La thèse de McIntyre, de Jane Austen, c'est la constance et la forme moderne du courage. Et de fait, alors, le courage viril du gladiateur, le courage du guerrier, Paul oppose la constance de l'apôtre. Il n'a pas d'arme, Paul, il n'est pas gladiateur, mais il se bat. Je boxe et c'est pas dans le vide. Bon, mais c'est métaphorique, mais il se bat. Signe, prodige et miracle. Alors là, vous me direz, voilà. Mais le truc intéressant, c'est qu'il met ça en second. Ok, oui, signe, prodige, miracle, ça je sais faire. Okay. Mais il met en premier constance. Donc, deuxième texte à l'appui de cette vision, c'est Romains 15, 17, où Paul... En fait, Romains, vous savez, c'est un digest de toutes les lettres précédentes. En gros, dans Romains, Paul reprend Thessaloniciens, Corinthiens, Corinthiens 2, Galates, etc., Philippiens, et il fait la synthèse de sa théologie. Donc, je peux remonter un peu avant, d'ailleurs. Verset 15. « Je vous ai écrit assez hardiment par endroits pour raviver vos souvenirs en vertu de la grâce que Dieu m'a faite d'être un liturge du Christ Jésus auprès des nations. » Alors, il ne dit pas comment. J'ai été institué par Dieu. Si vous voulez savoir, vous lisez le début de Galates. Bon, Dieu a daigné me choisir. Pourquoi ? J'en sais rien. Le fait est que j'étais un ennemi, il m'a transformé. Auprès des nations. Hein. Il ne dit pas, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, d'avoir vu le Christ Jésus. Ou d'avoir entendu la voix du Christ Jésus ressuscité me parler sur la route de Damas. Pas du tout. Je peux donc me glorifier dans le Christ en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Car je n'oserais parler de ce que le Christ n'aurait pas fait par moi pour obtenir l'obéissance des nations. Alors bon, ça tourne un peu pour dire, bon, le Christ a agi par moi. Alors ça veut dire quoi? Pour amener à l'obéissance ici veut dire la foi, pour faire naître la foi chez les païens. En parole et en œuvre. Par la parole des signes et des prodiges, par la vertu des signes et des prodiges, par la vertu de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui agit dans tout ça. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne met pas en valeur l'expérience de Damas ou son expérience personnelle comme ce qui fonde voilà, son apostolat. Il préfère dire, disons, les deux arguments qu'il emploie, il y en a un positif et un négatif. Le positif, c'est... Tous ceux qui sont devenus croyants grâce à lui. J'ai bossé plus que tout le monde, je suis allé dans plus de villes, j'ai converti plus de monde. Un argument du côté de la force, on va dire. L'autre, est plus intéressant, il est du côté de la faiblesse. J'ai pris plus de coups, j'ai été emprisonné plus de fois, persécuté plus. Voilà. Et j'ai tenu bon, j'ai poursuivi ma course. Donc, il invite, comme d'ailleurs dans 1 Corinthiens 12-14, à ne pas rentrer dans la course aux prodiges, aux apparitions. Mais à comparer le job, le boulot fait que tout le monde peut faire. Alors le don des langues, la prophétie, écoutez, j'ai le don des langues, j'ai le don de prophétie, je sais faire. Ok, c'est pas le problème. La question c'est qu'est-ce qui édifie la communauté? Voilà. La chair glorifie, l'esprit construit. Bon. Donc, la question c'est la construction de la communauté. Donc je dirais, pour répondre à votre question, Paul ne met pas d'abord en avant, et vis-à-vis de ses communautés, et pour justifier son ministère, l'excellence de ses révélations et apparitions. Il se trouve que Jésus s'est passé comme ça. D'ailleurs, il est très pudique et discret là-dessus. On ne sait pas grand-chose. On en sait tellement peu, d'ailleurs, que ce passage sur les 14 ans, il ne s'agit sans doute pas du chemin de Damas. Pourquoi ? Il faut avoir fait des maths, disons, niveau CM2. Ben, c'est écrit quand la lettre aux Corinthiens ? Massoménos. Ouais, pas mal, ouais, 55, entre 54 et 56, on va dire. Hein ? Donc 55, vous êtes pas mal. Bon, 55 moins 14. 55.14 41. Bon, alors Paul, il aurait rencontré le Christ sur la route de Damas vers quand de la vie à peu près unanime? 33-34, bon, 3-4 ans après l'année 30. Donc, 33-34 et 41, on a un bug quand même. Hein. Alors, les actes des apôtres vont nous parler à la fois de, trois fois, on l'a dit, de l'épisode de Damas, mais lors du récit la reprise, le deuxième récit, en acte 22. Donc je tombais, j'entendis une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » etc. « Que dois-je faire ? Va à Damas, etc. » Il y avait là un certain Ananie, etc. De retour à Jérusalem, bon, une fois, il m'est arrivé un jour que je priais dans le temple de tomber en extase. Je vis le Seigneur qui me dit, hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. Et puis un long Seigneur, je le sais, ils savent bien pourtant que de synagogue en synagogue, je faisais jeter en prison, etc. Quand on répandait le sang d'Étienne, dont témoin j'étais là, il me dit, va, c'est au loin, vers les païens, que moi je veux t'envoyer. Bon, en tout cas, on a une extase, autre que Damas, dans laquelle Jésus parle à Paul. Alors Luc, c'est pas des paroles ineffables. Jésus, là, c'est 5 sur 5, c'est très très clair et très compréhensible. Ce n'est pas des paroles mystiques sur la couleur des fleuves du paradis. C'est comme il y aurait dans les bons récits sur si vous êtes monté au paradis, ben vous dites un peu comment sont les cocotiers, parce que sinon, ce n'est pas drôle. Donc, Jésus lui dit juste, tu vas souffrir beaucoup, voilà, je t'envoie vers les païens, ce qui confirme ce qu'il a dit à Damas. Tout ça pour dire qu'on peut parfaitement supposer donc différents moments mystiques dans la vie de Paul, entre guillemets, pour nous, mystiques. Même si je vous ai dit que Damas était peut-être une apparition du ressuscité, donc un peu plus que mystique. Bon. Et après Damas, voilà, Paul, je ne dis pas que Paul ne le mentionne pas, mais il mentionne en passant, et ce n'est pas ça qui fonde son autorité ou son ministère. Parce que, après tout, les autres en face peuvent dire, voilà, nous on a vécu des trucs absolument incroyables. Bah, bien, donc après on juge l'arbre à ses fruits. Quelqu'un vient vous dire, bon, moi j'ai vu la Vierge Marie, elle m'a dit ça et ça. Bon, ben, vous n'allez pas forcément dire n'importe quoi. Bon, ok, très bien, on va voir, enfin, qu'est-ce qui change dans la vie, quels sont les fruits de la mission, enfin, qu'est-ce que ça donne. Moi j'attends, je dois dire, avec une certaine impatience, la publication du rapport qui a été remis au pape il y a 2 mois sur Medjugorje. Qu'est-ce qu'ils vont décider sur Medjugorje? Parce qu'on s'attend d'ici la fin de l'année à ce que le pape Francis... Medjugorje, vous ne savez pas ce que c'est? Ah. Vous êtes bien le seul catholique à Jérusalem qui ignore. c'est l'apparition mariale la plus longue de l'histoire de l'Église catholique, enfin si elle est reconnue, puisqu'elle dure toujours, ce qui est l'un des problèmes d'ailleurs de la Commission, parce que normalement, vous ne pouvez pas trancher tant que ce n'est pas fini. Mais évidemment, parce que si demain la Vierge Marie dit le pape est un hérétique, ou la Trinité en fait ça n'existe pas, ils sont quatre, enfin, etc. Si vous avez reconnu l'apparition, vous avez un gros problème technique sur le dos. Donc pour le moment, on a une apparition tolérée, enfin on a des phénomènes tolérés, même si régulièrement le Vatican dit aux évêques de dissuader les pèlerinages, donc aucun pèlerinage ne doit être organisé par des pèlerinages diocésains, ça doit être des associations privées, etc. Bon. Et donc vous avez des millions de gens qui sont allés depuis 25 ans, et des millions encore chaque année, ça doit être de l'ordre de 2 à 4 millions, 3, 4 millions par an, qui vont là. Où il y a d'ailleurs... À Medjugorje, c'est un petit village en Bosnie-Herzégovine, enfin dans la section croate en Herzégovine, enfin dans, pas loin de Mostar, du pont de Mostar, donc une petite ville où la Vierge Marie est apparue à un certain nombre de voyants, bon, qui étaient 6 je crois au départ, qui sont plus maintenant que 3, et qui a suscité dès le début un gros débat ecclésial, sachant que le contenu des messages... Voilà, faut prier, jeûner, le contenu des messages, faut se convertir, c'est pas mal, le contenu des messages, il n'y a rien de spécial à dire. Sauf que, ce qui était le fait d'un article célèbre dans la Civiltà Cattolica, sauf qu'à un moment donné, il y a eu quand même des choses, vraiment, l'évêque est méchant, parce que ceci, bon, vraiment, les franciscains sont très bien, c'est une paroisse franciscaine, hein, les franciscains sont arrivés là en 1230, et tiennent cette zone frontière avec les Turcs depuis 1230. Donc là-bas, vous avez la Trinité, les franciscains, et l'évêque qui fait ce qu'il peut, bon. Et donc, comme l'évêque était un peu sceptique sur cette affaire, et que c'était les curés franciscains du coin qui étaient en lien avec les voyants, bon, il y a eu des phrases un peu sévères sur l'évêque, de la Vierge Marie, donc ce qui a fait dire aux jésuites qui a écrit dans la Civiltà Cattolica, il y a 20 ans déjà, c'est un peu étrange que la Vierge Marie ait une telle dent contre l'évêque, c'est un peu bizarre. Bon. Mais le fait est que pour le moment, il y a eu des commissions, mais l'Église n'a jamais tranché. Et Jean-Paul II a reporté la... Et pour cause, une fois de plus, c'est pas fini. Alors là, il y avait une nouvelle commission, alors elle a rendu un rapport. Alors, si le rapport, par hasard, est négatif, à mon avis, ça va faire du bruit dans Landerneau, parce que si le pape va faire une affaire en disant « bon, on arrête tout », bon, tout ça pour dire qu'on juge l'arbre à ses fruits, et que les phénomènes mystiques, y compris au temps de là, bon, qu'est-ce que ça prouve? Donc Paul, quelque part, de manière extrêmement rationnelle et extrêmement plein de bon sens, il dit, bon, ben, l'arbre, il se mesure de deux côtés. D'abord, il faut que le ministre soit désintéressé. Donc, les curés qui se font bâtir des villas à 600 000 euros, comme j'ai vu dans le sud de la France, bon, voilà, qui donnent 10 euros par an à l'évêché. Oui, mais vous savez, les quêtes chez nous, il n'y a rien. C'est très, très pauvre. Hein. Et qui se font bâtir une villa à 600 000 euros, il y a un petit problème. Donc, le désintéressement des ministres, enfin... Global, la crédibilité, l'éthos, la crédibilité du ministre. Donc Paul, il dit, écoutez-moi, je me traite durement, je bosse, je ne demande aucun argent à personne, je travaille de mes mains, et je bosse plus que tout le monde. Alors, premier critère, de bon sens, observable. Deuxième critère, la persécution. Parce que si je voulais me plaire aux hommes, on dit que je veux plaire aux hommes, début de Galates, que mon évangile au rabais, là, mon christianisme facile, mon christianisme pour les nuls, c'est pour éviter la persécution. Et quoi ? Moi, éviter la persécution ? Et on vient d'entendre, moi qui ai reçu, qui suis couturé de cicatrices de partout. Donc, un véritable apôtre se révèle aussi tel par les risques qu'il prend personnellement. Il risque sa vie et pour l'Évangile. Bon. Alors, intelligemment. Et je pense que Paul, il n'aurait pas survécu 25 ans en faisant comme les franciscains, après François d'Assise, qui vont au Maroc en 520, sur la place principale de Rabat, et qui disent « Mahomet est un faux prophète et l'islam est une fausse religion ». Ils ont mal fini. Bon, ça, c'est une technique, vous ne vivez pas très vieux. Hein, c'est pas très au point comme technique. Bon. Donc, Paul, à mon avis, il ne faisait pas ça. Il ne se mettait pas sur la place principale d'Éphèse en disant « L'Artémis des Éphésiens est une idole, ses marchands sont des corrompus, etc. » L'émeute des orfèvres, c'est que les marchands d'Éphèse voient le développement d'une communauté para-juive, en tout cas, qui dit à ses disciples, n'allez plus dans le temple d'Artémis, ça leur suffit, les marchands. Bon. Donc vous imaginez l'évêque de Lourdes qui dit, plus personne n'achète rien chez les vendeurs de souvenirs. À mon avis, les vendeurs de souvenirs, ils auraient un problème avec l'évêque de Lourdes. Hein? Bon. Donc, C'est ça, mais Paul, c'est un malin, c'est quelqu'un qui sait dire « Ah non, non, je suis citoyen romain, je... » Voilà, il ne cherche pas le martyr. Mais en même temps, il dit « J'ai pris les coups. » Donc, jugez-moi sur pièce. Une fois de plus, on juge l'arbre à ses fruits, à la fois la crédibilité. Et puis, on pourrait dire la crédibilité de mes communautés. Une fois de plus, quand, l'histoire des jésuites en Chine, là, quand à un moment donné, il y a eu... un problème à la cour de Pékin, et pendant 10 ans, tous les jésuites, bon, les jésuites, ils étaient pendant 150 ans, entre 17 et 28. Donc, quand j'ai découvert ça, j'étais scié, toute la mission des jésuites de Chine, de Matteo Ricci jusqu'à 1724, c'était entre 17 et 30 gars. Très petit nombre. À un moment donné, ils sont virés de toute leur... L'empereur dit, bon, vous allez tous et leurs chrétiens restent pendant 10 ans sans rien, quasiment. Alors là, on juge l'arbre à ses fruits. Soit les types, ça tient pas la route, soit ils s'accrochent. Ils ont plus d'Eucharistie, ils ont plus de confession. Alors tout est basé sur la confession et sur l'Eucharistie. Eh ben, il faut se réunir le dimanche, dire des prières, faire des chapelets, etc. Et alors, quand ils reviennent 10 ans après, non seulement les communautés n'ont pas diminué, mais il y a même plus de monde qu'au départ. Parce qu'ils ont continué à évangéliser. Donc là, vous jugez l'arbre à ses fruits. Paul aurait fait pareil. Regardez mes communautés. Même à Thessalonique, face à la persécution, même à Corinthe, on tient bon. Donc, des arguments objectifs, repérables, rationnels, voilà. Une fois de plus, ça a été tel que, je pense, notamment dans la conscience catholique, le Paul charismatique, thaumaturgique, faisant des miracles, ayant des visions, on ne le connaît pas. On a un Paul théologien compliqué qui nous tient des discours le dimanche qu'on ne comprend pas. Bon. Mais donc, c'est un homme de la parole, c'est un pasteur luthérien au cube. Non, ce n'est pas du tout ça. Paul, il est un apôtre charismatique, accomplissant des signes étonnants, etc., comme sans doute Pierre et d'autres apôtres. Mais lui ne met pas ça en avant, et c'est ça qui est intéressant. Ça l'authentifie, exactement comme pour Jésus. Jésus était un thaumaturge exorciste puissant en œuvre, en parole, etc., qui ne mettait pas ça en avant. Non, non, la fillette, elle dort. Si tu tires le tapis sous le pied, non, elle est morte depuis 3 jours, et vous allez voir ce que je vais faire. Oh là là, bon, paf, il la ressuscite, alors là, effectivement, non, non, elle dort, c'est nul. Donc il minimise, il dit, c'est pas important, moi j'ai des choses à vous dire. Donc les miracles, c'est, il faut pas que ça perturbe le voilà. Alors Pascal, une fois de plus, Pascal et Bernanos ont dit des choses géniales là-dessus, voilà. Les miracles, c'est plutôt un obstacle à la foi qu'autre chose, parce que ça attire l'attention sur ce qui est périphérique. Ou alors, il faut dire, oui, ça dit l'amour de Dieu, mais attention, mais là, voilà, Dieu aime tout le monde, y compris ceux qui, les milliers de personnes qui n'ont pas bénéficié du miracle. Bon. Donc je pense que là, il est homologue à l'attitude de Jésus qui ne mettait certainement pas en valeur tous les matins, regardez tout ce que je fais, tous les miracles que je fais, tous les démons que je chasse. Alors, il en parlait, un peu, il dit pas, non, non, moi je fais rien, oui, oui. Aujourd'hui, demain, je chasse les démons, j'accomplis les guérisons. Bon, allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Il le dit de temps en temps. Mais la plupart du temps, il insiste sur le contenu de son message. Théologique, éthique, voilà. Son message qui n'est pas appuyé ou justifié par les miracles qu'il fait. C'est la lecture que je propose. Évidemment, ça a des conséquences de théologie fondamentale, d'apologétique. Comment vous présentez... la crédibilité, l'amabilité et la cohérence de la foi chrétienne. Alors, si vous dites, oui, vous savez, à Lourdes, il y a un miracle tous les 2 ans. C'est une belle affaire, c'est bien, c'est sympa, bon, chouette. Enfin bon, il y a aussi beaucoup de gens qui vont à Lourdes et il n'y a pas de miracle. Alors le plus grand miracle, c'est ce que c'est pas plutôt la foi, l'espérance et la charité en œuvre dans la vie des communautés chrétiennes et dans la vie des chrétiens. Qu'est-ce qu'on met en avant ? Et c'est là aussi où on a bougé. Les manuels d'apologétique catholique entre 1840 et 1930, c'était la preuve par les miracles. Merci, oui, je n'étais pas né. Allons jusqu'en 1950. Non, peut-être pas. Mais, non, parce que ces manuels-là ont quand même bougé un peu après-guerre. Mais, donc, voilà, nous, ça ne nous paraît pas forcément, une fois de plus, ce n'est pas pour dire que ça n'a pas eu lieu, mais ça ne nous paraît pas si décisif. Et donc je pense que les lettres de Paul nous fournissent un appui pour ce type d'approche. Mmh. Mmh. Il y a eu une année paulinienne, 2007-2008. Bon, très bien. Et du coup, on en fait trop, on n'en fait pas assez. J'ai pas compris votre point. Mais l'Esprit Saint a voulu qu'on ait les trois récits des actes. Donc maintenant, on a les trois récits des actes. Il faut les prendre en compte quand même. Paul lui-même n'a pas voulu, mais Luc nous en a fait trois fois le récit de manière solennelle. Attendez, là on revient, j'ai parlé déjà de ce point. Non, il est le dernier, l'apparition du Christ ressuscité, à ce niveau-là, il est le dernier. Joseph Ratzinger, volume 2, et là, tous les théologiens seront d'accord avec Ratzinger. La seule question, soit vous le mettez au tarif commun, soit ça s'arrête avec lui. De toute façon, il n'y a pas d'apparition du Christ ressuscité, et aucune révélation, la révélation s'arrête à la mort des derniers apôtres, donc à la deuxième de Pierre, et il n'y a pas de révélation après. Non. Non, alors le... Ah oui, ah ça c'est sûr. Ça nous considérons, nous, que la révélation, nous avons dans le Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus transmises par les évangélistes ou dans celles, ou dans Jésus ressuscité parlant dans les épîtres de Paul, de Pierre et de Jacques, et l'Apocalypse, ce qu'il nous suffit, tout ce qu'il nous suffit jusqu'à la fin des temps. Ça c'est un dogme. Pour tous les chrétiens, ça ne peut pas changer.
Oui.
Et que par ailleurs, le point technique que discutait Ratzinger dans son volume, c'est de dire, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire, peut-on dire que l'expérience du chemin de Damas est une apparition de Jésus ressuscité, sachant que, normalement, les apparitions de Jésus ressuscité n'ont duré que 40 jours après Pâques au maximum, selon Luc, voire 8 jours seulement selon Jean. Bon, enfin, c'est très bref, et là, on est 3 ans après, a priori, dans l'hypothèse la plus brève. Voilà, donc, quid de le statut de cette affaire-là? Et son explication, à la fois subtile et élégante, est de dire... Oui, normalement, ça s'arrête après 40 jours, sauf pour Paul, où l'Esprit-Saint et Jésus ont voulu que Paul ait un statut. Alors, l'autre chose, par rapport à la place de Paul, on avait un double problème jusqu'aux années 50. D'abord, la polémique avec les luthériens et les protestants, puisque le cœur du débat, c'est ce que vit le monde et l'Église maintenant. L'Église était européenne, en gros. Et ça se jouait entre 4 pays au plan théologique, Espagne, France, Allemagne, Italie, quelques Anglais. Bon. Or, Paul a pour les luthériens le rôle d'un canon dans le canon. Non seulement Paul, mais Romains 5 à 8 pour Luther. Donc, les catholiques avaient une espèce de complexe et ne voulaient pas trop rentrer. L'exégèse paulinienne, luthérienne, dominait tellement que les catholiques étaient un peu embêtés. Et les catholiques disaient non, mais les actes c'est important. Et puis Éphésiens et Colossiens c'est important. Et puis Tite et Timothée, etc. Même ce Paul-là, le fru catholicismus, le proto-catholicisme de Luc et des pastorales, c'est encore. Bon. Donc je pense qu'on était un peu embarrassés. D'une part, on lisait beaucoup moins la Bible. Deuxièmement, on était dans un complexe vis-à-vis des luthériens sur la personne de Paul. Et puis on disait, il y a quand même Pierre. Alors maintenant, il y a eu Oscar Kuhlmann en 1954. Bon, il y a quand même un certain nombre de protestants historiques qui ont dit oui. Il faut quand même reconnaître la place de Pierre. Donc les protestants étaient un peu classiques, disons luthériens et réformés, étaient un peu dans un tout Paul, dans lequel tous les autres apôtres passaient au second plan. Et nous étions pour dire, oui, il y a un 13e apôtre, il y a Paul qui a une place très importante, un rôle très important. Mais enfin, voilà, il y a Pierre, et puis voilà, il faut prendre tout ça dans l'ensemble. Et il y a le Nouveau Testament dans lequel il ne faut pas surexagérer non plus Paul. Enfin, une fois de plus, la moitié du Nouveau Testament... Si on prend Luc et Paul, se revendique de Paul. Donc, c'est une place objectivement très importante. Chronologiquement, ça c'est un argument qui, bon, oui, mais pas un argument. Enfin, pour nous, par rapport à l'évangile de Jean, ou bon, Jean 21, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Bon. C'est plutôt qu'il faut prendre Pierre et Paul. Voilà. Alors, le fait que l'Église de Rome, elle est fondée sur les tombeaux de Pierre et Paul. Pierre et Paul. Donc il y a une fête de la Saint-Pierre-Saint-Paul le 29 juin, et il y a une fête de la conversion de Saint-Paul, alors bon, le nom devrait peut-être changer, mais en tout cas de l'appel, la vocation de Saint-Paul, le 25 janvier là, et puis 22 février, la chaire de Saint-Pierre. Alors c'est tout. Aucun autre apôtre n'a la fête de son retournement. Donc là, par rapport au Nouveau Testament, il n'y a que Paul. Mais il y a la chair de Pierre qui, évidemment, manifeste la primauté de Pierre. Et tous les deux sont unis dans la mort et dans le martyr et dans la célébration commune du 29 juin. Donc c'est assez bien pensé. Là, catholiques et orthodoxes, disons, on est d'accord. Je mets à part les questions canoniques et le pape, est-ce qu'il nomme les évêques ? Mais au niveau symbolique de Pierre et Paul. Pierre et Paul doivent être tenus en... Et là, c'est gentil, c'est le sens de mon dernier point. C'est-à-dire que la lettre aux Romains et la collecte, c'est Pierre et Paul. C'est Pierre et Paul. Oui ?
Les premiers écrits ont fait. Il y avait une sacrée.
Comment Paul a pu élaborer une telle théologie aussi vite?
Oui, alors on comprend un peu Jean.
Vous êtes sur une datation très tardive de Jean, hein? 80 ans après 30, ça nous met vers 110. C'est ce que disent certains. Hein. C'est une... Mais puisque le premier papyrus de Jean qu'on a est de 125, hein, qui est la bonne mère. Bon, enfin, d'Égypte, on suppose que le texte est plus ancien. Correct. Alors là, ça touche un débat qui est de nouveau assez brûlant depuis une dizaine d'années, où l'auteur important est un certain Larry Hurtado, hein, H-U-R-T-A-D-O, Larry Hurtado, dont maintenant plusieurs livres sont traduits en français. Donc l'un s'appelle « La dévotion au Seigneur Jésus dans les trois premiers siècles ». Il défend ce qu'il appelle le modèle de l'explosion, parce qu'en fait c'est lié à des conceptions qu'on a du développement de la christologie. Je vais essayer de simplifier les choses. Une fois de plus, pendant longtemps, une certaine exégèse protestante entre 1880 et 1950, et on a encore des traces en France récemment, défendait l'idée, historien exégète, bon, que arriver à croire en la divinité de Jésus préexistant au Père, venant s'incarner, ressuscitant, tout ça, il fallait, mais alors, un travail théologique des générations. C'était très compliqué d'arriver à cette conclusion. Et que donc cette christologie achevée, haute, etc., n'avait pu arriver qu'après un certain temps. Bon. Et du coup, vous avez le noir qui, alors lui, délire complètement, mais va vous dire, bah, c'est au concile de Nicée qu'on a découvert par accident la divinité du Christ, etc. Bon, tiens, parce que Constantin, je sais pas, n'importe quoi. Une fois de plus, vous lisez mon Seigneur et mon Dieu, vous lisez Romains 9, vous lisez, bon... Alors, mais Hurtado va plus loin encore que cette option-là. Il dit, il y a eu une explosion christologique, si je puis dire, extrêmement forte et rapide, et théologisée, très vite. Donc, pas seulement chez Paul, sans doute, mais chez les autres aussi, y compris à l'origine du courant johannique. Alors évidemment, c'est plutôt gagé sur l'expérience radicale de la résurrection, alors que comment, à quoi ça ressemblait épistémologiquement, phénoménologiquement, on a un peu de mal à imaginer, bon on a des récits un peu différents. Enfin il y a eu quelque chose quand même. Donc il faut plutôt penser en termes, si vous voulez, d'explosion de bombes atomiques que de, vous savez, la mèche dans les vieux films où il y a une longue, les westerns, où ils allument leur mèche, là, puis ça met 20 minutes à arriver à la bombe qui est au bout du fort là-bas, et on se dit, oulala, est-ce que les Indiens vont pas arriver à éteindre le fil avant qu'ils arrivent? Non, plutôt penser à quelque chose d'extrêmement rapide. Et donc, dans ce cas-là, Paul ne serait pas tellement une exception. Alors, au niveau de la formulation, sans doute que les communautés de matrice araméenne, de Judée, Galilée, Samarie, étaient beaucoup plus dans des catégories du Fils de l'homme, siégeant à la droite du Père, enfin... dans des matrices beaucoup plus bibliques et tout. Alors, Paul utilise sa culture juive hellénistique, sa culture pharisienne, etc. Alors, sauf que d'autres pharisiens devaient être aussi dans les autres communautés chrétiennes. Il n'y a pas de raison des gens comme Nicodème, Joseph d'Arimathie, Nicodème, et puis l'autre sympathique, le père d'Alexandre et de Rufus, là, Simon de Cyrène, ces gens comme ça. Donc, des poids lourds, certainement, avec une formation religieuse à Jérusalem. il se trouve qu'on n'a pas leur texte. Mais enfin, peut-être que leur théologie, elle est en partie dans Matthieu, dans Marc et dans Jean. Hein. Donc l'idée, je pense que c'est une bonne question, je ne suis pas sûr de répondre, mais c'est plutôt de penser que Paul n'est peut-être pas tellement une exception. C'est-à-dire qu'il y a eu très rapidement une christologie haute, on va dire, ou une conception extrêmement forte déjà, on va dire, de ce que nous, on va appeler la Trinité, même si le mot n'y est pas. Enfin, les salutations de Paul trinitaires, elles sont fréquentes et elles sont dans les lettres authentiques et personne ne les met en cause. Hein. Donc, la force de Paul, c'est peut-être d'avoir eu, une fois de plus, à formuler en grec cette christologie haute chrétienne, ces convictions chrétiennes, de façon forte, en argumentant, et que comme il avait des disciples qui tenaient beaucoup à lui et qui ont conservé ses lettres, bon, ses collections ont été conservées, alors que nous n'avons pas les prédications des apôtres, des 10 apôtres qu'on connaît à Jérusalem en 43 ou en 37. Mais après tout, le contenu devait être substantiellement le même. Donc quand j'avais présenté, je crois, vous savez, ce schéma avec les jacobites, les johanniques, hein, les pauliniens et les pétriniens, plutôt jacobites, pétriniens, pauliniens, johanniques, les quatre grands courants, moi je ne suis pas sûr qu'il y ait des différences en termes de christologie. Ou qu'il y en ait qui étaient un peu plus... Non, je pense qu'ils bénéficiaient tous de la même radioactivité, si je puis dire, théologique, de l'explosion initiale. Alors ce qui est intéressant sur le travail de Hurtado, c'est que c'est un travail scientifique, hein, c'est un travail d'historien. Il se trouve qu'il est chrétien, mais des gens non chrétiens ont apprécié son livre. On dit, voilà, c'est un gros pavé, hein, c'est convaincant. Il cherche à rendre compte, historiquement, de comment les premiers chrétiens ont pu élaborer leur théologie et aussi vite avoir les outils pour le faire. Alors, d'une certaine manière, le bouquin que j'ai traduit de mon ami Daniel Boyarin, Le Christ juif, qui fait un malheur depuis septembre en librairie. Malheureusement, je ne suis pas intéressé aux ventes. Les traducteurs sont payés une fois pour toutes. C'est tout à fait regrettable. Bon, on a un juif orthodoxe. Moi, je trouve que pour l'apologétique chrétienne, c'est un bouquin fabuleux. On peut discuter des trucs, mais qui nous dit, mais finalement, le binitarisme, penser que le fils de l'homme qui circule sur les nuées du ciel et qui a un trône à côté de Dieu soit consubstantiel à deux, c'était une idée qui était dans l'air chez certains. Alors, pas chez tous les juifs, tout le temps, etc. Mais enfin, bon... On a la littérature d'Enoch, le premier livre d'Enoch. On a d'autres textes de ce premier siècle avant, premier siècle après, qui montrent que c'était concevable. Les souffrances du Messie. Bon, il défend l'idée, c'est un petit peu plus à discuter, mais pourquoi pas, ça a été dit avant, que le thème, déjà le lien qui est fait entre le serviteur souffrant d'Isaïe et le Messie, ça avait déjà été fait par d'autres. Moi, j'attends avec impatience, enfin, comme beaucoup de monde, la sortie du 5e volume de John Mayer sur les titres de Jésus, où il va nous dire, est-ce que, historiquement, Jésus est le premier à avoir fait le lien entre le serviteur souffrant et le fils de l'homme? Parce que, finalement, l'opération technique que fait Jésus, herméneutique sur l'écriture, prenez ces arrêts de Philippe. Qui es-tu? Bon, tu es le Messie, le fils du Dieu vivant. Très bien. Jésus leur dit, le fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Attends, Pierre pourrait dire, attends, non, stop, moi, je ne parle pas du fils de l'homme, je parle du Messie, là. Mais c'est la même chose. Ah bon? Jamais le Fils de l'homme n'est qualifié de Messie dans les livres de Daniel et après. Bon, qu'est-ce qui te permet de dire que le Fils de l'homme, c'est le Messie? Bon, première opération, le Messie égale le Fils de l'homme. Deuxième opération, le Fils de l'homme égale le serviteur souffrant d'Isaïe, qui n'est lui aussi jamais qualifié de Messie dans tout Isaïe, puisque le seul Messie dans Isaïe, c'est Cyrus. Une seule fois, le mot Messie. Bon. Donc, cela dit, Jésus n'a pas, inventé ça de rien. Jésus, à partir de l'Écriture, avait un certain nombre de possibilités pour, spirituellement, faire le lien entre ces différentes figures énigmatiques, en partie glorieuses, en partie souffrantes, souffrant pour et par leur peuple, de leur peuple et pour leur peuple, les deux en même temps. Et voilà, Jésus avait... ce que disent ces auteurs-là. Donc, vous voyez le titre, le Christ juif. Alors, j'ai un compagnon prêtre qui a eu un petit malentendu. Il a cru que c'était une christologie. Il me dit, mais pourquoi il ne parle pas de la résurrection? Il parle de beaucoup de choses. C'est pas une christologie. Il n'est pas chrétien. Il dit juste, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on pensait le Christ, c'est-à-dire le Messie, chez les juifs à l'époque? Et en quoi ça peut aider à comprendre Jésus et les premiers chrétiens? Bon. Alors, évidemment, en disant ce que je dis sur Jésus, je ne suis pas comme certains exégètes Alors, il y a 100 ans, hein, le libéraux allemand, il dit, mais Jésus, il n'a jamais cru qu'il était le Messie, quelle idée, jamais cru qu'il était le Fils de Dieu. C'est un brave rabbin de Galilée. Et puis alors, les premiers chrétiens ont vécu des trucs bizarres, et puis ils sont arrivés à la conclusion saugrenue qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Bon, moi, je ne crois pas ça. Je pense que Jésus, de son vivant, consciemment, pensait qu'il avait un lien unique au Père, et que, par ailleurs, il avait une mission à accomplir, qu'il était le Fils de l'homme, serviteur souffrant, Messie, Fils de Dieu, vous voyez ? Voilà. Mais pas du genre à s'en vanter tous les matins, parce que, une fois de plus, du fait même qu'il l'était, quand vous l'êtes, voilà, une fois de plus, les gens qui disent tous les matins qu'ils sont le Messie, ils sont dans les asiles. Les gens qui se prennent pour le Messie, on les enferme. Voilà. Les gens qui sont le Messie, ils agissent différemment, mais ils ne le disent pas tous les matins. Mais beaucoup de formules de Jésus sont indirectes et permettent à ceux qui l'écoutent, toi qui m'écoutes, vas-tu reconnaître en moi un fils d'homme, c'est-à-dire vous et moi? C'est à peu près l'équivalent d'un fils de la femme. Un fils d'homme, c'est-à-dire c'est n'importe qui. Bon. Ou le fils de l'homme de Daniel, c'est-à-dire celui qui se déplace sur les nuées du ciel, mode divin de transport, comme dit avec humour Boyarine, et qui a un trône à l'égal de Dieu, à qui Dieu confie puissance, royauté, domination sur tous les royaumes et sur toute la terre pour juger en gros les vivants et les morts, bon, et qui est quasiment dans le texte consubstantiel à Dieu. Alors ce que montre très bien Boyarine, et là tout. Il n'est pas le seul, tout le monde est d'accord. Le texte de Daniel lui-même révèle une intense bagarre herméneutique chez les juifs depuis deux siècles. Puisque, un chapitre plus loin, on nous dit, mais c'est le peuple des saints du Très-Haut. Non, non, ce n'est pas un personnage de l'homme, c'est un symbole pour dire le peuple des martyrs d'Israël. Il y a une bagarre herméneutique dans le texte. Il y avait des gens qui disaient, non, c'est une figure bien précise, c'est cette binitaire, c'est-à-dire c'est cette figure consubstantielle à Dieu, proche de Dieu, par laquelle Dieu, etc. Bon. Et d'autres qui disent non, pas du tout. Ça, c'est des farfelus. On peut pas dire des choses comme ça. Ça représente ce fils Israël humilié sur terre et que Dieu va exalter. Bon, très bien. Et alors, en Jésus, évidemment, baptisé, ressuscité, c'est non seulement Israël, mais c'est toute l'humanité qui est déclarée fille, fils et destinée à la gloire, évidemment. Jésus, c'est pas son propre gérald de lui-même. Il s'en fout. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas individuel au sens moi tout seul. Ce que Paul a très bien compris. Vous êtes ressuscité avec le Christ. Alors les autres pourraient dire, comment? Ah bon, on n'est pas au courant. Mais si, vous êtes mort. Si le Christ n'est pas mort pour tout le monde, ça ne sert à rien. S'il est ressuscité que pour lui, si Dieu voulait ressusciter que lui, fait plus, alors ce n'est pas pertinent pour nous. Donc l'affirmation de Paul, mais elle est enracinée dans beaucoup de propos de Jésus, c'est que c'est le destin et d'Israël et de l'humanité qui est en cause dans son destin personnel. Et une fois de plus, il y a beaucoup de choses en théologie juive qui permettent de penser ça, jusqu'à aujourd'hui. Vous prenez un Rabbi Nachman de Bratslav, sans parler de Rabbi Menahem Schneerson, le fondateur des Lubavitch, enfin, moderne, mais vous prenez Rabbi Nachman de Bratslav, 1780-1820, le rabbin qui a le plus ressemblé au Christ, disons, dans les quatre derniers siècles, celui qui racontait des paraboles, qui aimait danser, qui voulait consoler Israël, etc., et qui allait en Israël pour vivre une expérience mystique, etc. Bon, Rabbi Nachman, que ses disciples aimaient tellement qu'après sa mort, il n'a pas été remplacé comme chef de la dynastie, et qu'on les appelait en Pologne en 1880 les disciples du rabbi mort. Magnifique. Bon, donc, et qui sont en Israël très connus, les Bratslaveurs, enfin même à Paris. Bon. Donc Rabbi Nachman a vécu son destin d'identification mystique à Israël, a vécu des choses qui sont assez proches de ce que Jésus, sans doute, a pu vivre. Bon. Donc, la ligne de ce que montre Boyarine, c'est que sans doute, les différences, voilà, que beaucoup de juifs, quand beaucoup de juifs disent non, mais les idées chrétiennes, c'est absolument impossible de les dire dans le judaïsme, cette idée qu'il y a une trinité, etc. Boyarine dit, mais c'était parfaitement pensable. Ce qui est génial, apologétiquement, c'est un juif orthodoxe qui nous dit, mais non, c'est parfaitement pensable. On peut penser le développement du christianisme, et de Jésus lui-même, à partir d'éléments qui sont dans le judaïsme. Alors, attention, ne me faites pas dire ce qu'il ne dit pas. Lui-même va dire, je ne nie pas l'inouï, la nouveauté. Et oui, il y a une nouveauté, le rapport à l'Esprit-Saint, même le concept même de Trinité, ça c'est nouveau. Et puis même sans doute, alors moi j'attends ce que va dire Maier, ce lien serviteur souffrant, fils de l'homme et Messie. Bon. Voilà, ma position, si vous voulez tout savoir, ma position personnelle intérieure actuellement sur cette question, puis que j'y réfléchis depuis quelques années, c'est que précisément l'originalité de Jésus a consisté dans son itinéraire spirituel de lecture des Écritures et de prière et de contact avec celui qu'il appelait son Père, a consisté à percevoir que la mission ultime, donc qu'il était l'envoyé ultime, qu'il était le Fils, recevant sa filiation de ce Père, et que son chemin, sa mission, bien sûr, quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire accompagné avec les anges. Très bien. Oui, cette figure aura le rôle ultime de la gloire et du jugement de la fin des temps. Mais qu'il devait passer par le destin du serviteur souffrant du Vendredi Saint, d'Isaïe 52-53. À un moment donné, ça a été clair pour Jésus. Alors après, vous pouvez faire des options psychologiques, historiques, des hypothèses. Vous pouvez dire, par exemple, quand Jean-Baptiste a été exécuté et qu'il a compris que bon, bah, le destin des prophètes, et même le grand prophète ultime avant le Messie, c'est Jean-Baptiste. Parmi les enfants des hommes, il n'en est pas né de plus grand, etc. Bon, Jean-Baptiste a été décapité. Bon. Alors, au minimum, le Fils de l'homme aura le même traitement. Bon. Alors, sachant que les Romains crucifient, pas avoir fait polytechnique pour comprendre que si on va à Jérusalem et qu'on va être trahi et que les gens qui veulent vous tuer vont dire de vous que vous êtes un rebelle, etc., que vous allez finir crucifié. Et puis peut-être que l'Esprit-Saint le lui confirme dans la prière, que Dieu le lui confirme dans la prière, ce qui aboutit à une espèce de conviction intérieure très forte de Jésus que c'est ainsi que doit s'achever sa vie terrestre. Bon. Tout ça, la résurrection le troisième jour, comment vous comprenez ça? Soit vous dites l'Esprit-Saint... Allô Jésus, oui, alors je te rappelle qu'après la crucifixion, tu ressuscites 3 jours après, hein, t'inquiète pas, bon, il y a un petit moment, mauvais moment à passer, mais 3 jours après, c'est la résurrection. Ok, c'est bien, vous raccrochez. Moi, ça ne me plaît pas trop, ça. Moi, je préfère une réflexion, Michel Remeau, le troisième jour dans les Écritures, qui dit, partout dans les Écritures, le troisième jour est le jour du don de la vie. C'est le troisième jour qu'Abraham doit sacrifier Isaac, et qu'au loin, il voit donc, et qu'Isaac est rendu à la vie, le fils est rendu à la vie. Que les espions restent 3 jours chez Rahab dans le puits, recouverts par une pierre avant de sortir. C'est 3 jours que la Torah est donnée au Sinaï. C'est 3 jours qu'Esther fait la vie. C'est le troisième jour. Quant au Fils de l'homme, dans Daniel, ça c'est Boyarine qui fait cette hypothèse dans une note, je la trouve pas idiote, et il faudra que le spécialiste de ça, c'est Karl Lehmann, le cardinal allemand. Alors ça c'est un des trucs aussi, si vous connaissez l'allemand et que vous avez rien à faire pendant un an, traduisez sa thèse sur le troisième jour. Pas traduit en français, c'est incroyable. Bon. Ressuscité le troisième jour. Vous vous souvenez, il y a un passage, un verset un peu bizarre dans Daniel qui dit « L'épreuve durera un temps et la moitié d'un temps. » C'est un et la moitié d'un. C'est quasiment 3 quand même. Hein? Un temps et la moitié d'un temps. Donc il y a dans les Écritures des pierres d'attente pour le troisième jour. Alors d'ailleurs, peut-être que si vous aviez pressé Jésus de questions en disant « Bon, mais t'es vraiment sûr, ça sera le troisième jour montre en main, chrono, top. » Jésus aurait dit, écoute, moi, le troisième jour, c'est peut-être le troisième jour de Dieu, un troisième jour pour Dieu. 1000 ans sont comme un jour. Alors après tout, c'est peut-être dans 3000 ans. Peut-être que Jésus aurait été, réaliste. Enfin, moi, je lis les Écritures, je dis le troisième jour. Maintenant, le troisième jour, voilà, moi, j'ai pas une certitude, j'ai ma vision de fils, hein, qui ne connaît ni le jour ni l'heure. Enfin bon, moi, je suis pas là-haut. Jésus, tant qu'il est pas là-haut, il est pas là-haut. Il est en bas. Bon. Donc sa certitude ne peut être qu'une certitude comparable à la nôtre, c'est-à-dire discernée spirituellement, réfléchie intellectuellement, adossée sur les Écritures, et qui a le degré de certitude auquel elle peut prétendre, ni plus ni moins. Bon, nous étions au cœur des choses. Donc on essaiera quand même d'attaquer Romains 9 à 11 la prochaine fois.